Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir,
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et c'est un plaisir de vous retrouver pour votre grand journal avec de l'info en direct, l'analyse, le débat, nos invités mobilisés ce soir. Ça commence à 18h15 avec le jeu syndical auquel nous assistons en ce moment. La CGT déterminée, la CFDT qui ne veut pas de blocage à Noël. Décryptage pour nous aider d'un spécialiste des mouvements sociaux, Bernard Vivier. 18h30, on va en entendre parler. Demain, les routiers, eux aussi en grève. Quelle revendication! C'est la patronne de la Fédération nationale des transporteurs routiers qui est avec nous. 18h50, une chanson dans la tête. À l'occasion de la disparition d'Anna Karina, on retrouve ce côté chanteuse avec Gainsbourg dans la comédie musicale Anna, avec Fabien Lecoeuvre qui nous parlera de cet homme, Gainsbourg, qui aime tant faire chanter les actrices. 19h15, 660 médecins hospitaliers se disent prêts à la démission alors que l'hôpital se meurt et que la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur. L'un d'entre eux est avec nous. 19h30 pour le débrief de l'actu. Je reçois ce soir Corinne Lepage et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Voici d'abord une première édition de ce journal avec Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h.
Garderie, pet cantine, donc il faut aller le chercher, déjeuner, le ramener à l'école, rentrer, faire les devoirs. Tout ça en télétravaillant, c'est cadeau.
Ceux qui reprennent le travail demain partagé entre lassitude et débrouille, alors que le trafic va rester très perturbé pour le 12e jour consécutif, un TGV sur 3, un Transilien sur 4, 4 TER sur 10 à la SNCF et dans le métro, 8 lignes toujours fermées.
Dans l'actualité également, clap de fin pour la COP25 dans la douleur avec 42 heures de retard et un accord à minima.
La cagnotte pour la famille d'un pompier mort dans un accident d'hélicoptère piraté, il ne reste que 600 euros sur les 30 000 collectés.
Je suis totalement dégoûté que l'on ait fait ça envers quelqu'un qui n'est plus là, qui a rendu un service, qui a eu les hommages nationaux.
On est ensemble jusqu'à 20h, soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et voilà donc Fabienne, le même scénario que celui de cette semaine qui se profile demain pour ceux qui doivent se déplacer en train ou en métro.
Effectivement Wendy, trafic toujours aussi réduit à la SNCF, un TGV sur 3, un Transilien sur 4, 4 TER sur 10. À la RATP, trafic toujours aussi perturbé avec 8 lignes fermées et des rames aux heures de pointe sur celles qui fonctionnent comme vendredi. Côté RER, un RER A sur deux, en moyenne 1 sur 2 pour le RER B. Voilà pour les toutes dernières prévisions de trafic qui viennent de tomber. Alors forcément, chez les usagers, il va falloir encore faire preuve de patience et de système D. Et d'ailleurs, Caroline Baudry, vous avez rencontré une certaine lassitude chez ceux qui reprennent le travail demain.
Oui, c'est un blues du dimanche soir, pas tout à fait comme les autres. Les Parisiens savent ce qui les attend, des heures de perdu dans des rames de métro bondées. Alors Anita et Sophia sont fatiguées d'avance de ce retour au boulot.
En fait, il va falloir s'organiser au travail, c'est-à-dire de condenser le travail parce que justement, on a moins d'heures dans la journée pour faire tout ce qu'on a à faire.
Et surtout, travailler avec l'angoisse de ne pas pouvoir rentrer le soir à la maison. Quelquefois, c'est vrai qu'on arrive à y aller, mais après, pour revenir, c'est compliqué.
Et pour ceux qui ont réussi à obtenir des jours de télétravail supplémentaires, ils doivent aussi gérer les galères d'école de leurs enfants, comme Carole qui doit revoir son planning familial de la semaine.
Pet périscolaire, donc ce qui signifie pet garderie, pet cantine. Donc il faut aller le chercher, déjeuner, le ramener à l'école, rentrer, faire les devoirs. Tout ça en télétravaillant, c'est cadeau. Vivement les vacances scolaires. Et que ça s'arrête.
Alors des vacances de Noël attendues, mais qui risquent elles aussi bien sûr d'être perturbées par les grèves.
Caroline Baudry a ses difficultés dans les transports. Vient s'ajouter le mouvement des routiers demain avec un rassemblement à Paris devant le siège de la FNTR, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers.
Dont nous recevrons à 18h30 la déléguée générale. Du côté du dialogue social, on a vraiment l'impression pour le coup d'être au point mort.
Effectivement, pour l'instant, toujours aucun rendez-vous fixé officiellement entre syndicats et gouvernement. Tout semble figé dans l'attente de la journée de mobilisation de mardi, Claudia Bertram.
Oui, syndicats et gouvernement campent sur leur position et c'est l'âge pivot qui est au centre du bras de fer. Laurent Berger, le leader de la CFDT, est sorti de son silence dans le JDD. Il le répète, le gouvernement doit retirer de sa réforme l'âge pivot. Le Premier ministre redit dans le Parisien sa détermination à mener la réforme, mais sa porte reste ouverte, dit Matignon. Dès jeudi soir, Édouard Philippe a notamment appelé Laurent Berger qui laisse entendre qu'il est disposé à retourner à la table des négociations. Mais aucune date n'est arrêtée pour le moment. À Matignon, Matignon. On s'est fait une raison. Les discussions ne reprendront pas avant la grande mobilisation prévue mardi. Les ministres tentent de déminer le terrain d'ici là. Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, qui juge hier que l'âge pivot est négociable. Aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, estime qu'il ne s'agit pas d'un totem et que tous discutent. La semaine va donc être décisive alors que l'inquiétude commence à monter à l'approche des fêtes de Noël.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1, on l'entend au début de ce journal, lassitude du côté des usagers des transports, inquiétude du côté des professionnels du tourisme, comme a pu le constater notre correspondant dans le Sud, Frédéric Michel.
Sur la Côte d'Azur, décembre est un mois calme, alors il est encore difficile de dresser un bilan pour les professionnels du tourisme, notamment les hôteliers. Mais la crainte, après le mouvement des Gilets jaunes, c'est de voir cette grève durer et ternir un peu plus l'image de la France à l'étranger, alors que la clientèle internationale, notamment la clientèle d'affaires, est essentielle pour l'économie de la région. Pierre-Louis Roucariès, président de Provence Côte d'Azur Events.
On est forcément impacté par ces images, par des étrangers qui vont hésiter à venir organiser des événements chez nous. Ça permet d'utiliser toutes les infrastructures que nous utilisons l'été, donc ça pérennise les emplois. C'est un marché important, il faut le chouchouter.
Si la grève se poursuit, touristes et professionnels pourraient réfléchir à deux fois avant de choisir pour destination la France et la Côte d'Azur. Michel Chan dirige un établissement hôtelier à deux pas de la promenade des Anglais et il est le président d'honneur du syndicat des hôteliers de Nice.
La France apparaît une fois de plus comme une destination qui n'est pas fiable, où on risque d'avoir des grèves. Et donc, on a besoin de fiabilité, des liaisons aériennes, des transports, des approvisionnements. Et lorsque une société décide de faire une réunion, c'est l'ensemble de cette chaîne qu'elle regarde. Et aujourd'hui, la France a un maillon très, très, très faible sur cette chaîne.
Malgré cela, pour l'instant, la France reste le premier pays organisateur d'événements au monde.
Et Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.
18h06, la suite du journal sur Europe 1. Fabien Lemoyle, Wendy Bouchard.
Et le clap de fin pour la COP25 à Madrid, les 196 pays participants se sont mis d'accord, ce fut laborieux, sur un texte final à la mi-journée.
Et oui, non sans mal, Wendy, vous le disiez, on a battu des records de retard. Virginie Salmen, vous rentrez tout juste de Madrid et c'est tout simplement la COP la plus longue de son histoire.
Oui, elle s'est terminée avec 42 heures de retard, quasiment deux nuits blanches de travail pour les négociateurs. Chacun a défendu ses intérêts économiques et donc pas d'accord sur les points principaux. Cette COP25 aurait pu être une rampe de lancement pour afficher une prise de conscience après les tout derniers rapports scientifiques alarmistes et des engagements pour l'an prochain. Mais sur 196 pays, 80 seulement se sont engagés à annoncer des efforts supplémentaires pour limiter les gaz à effet de serre. Ce sont essentiellement des pays émergents comme le Maroc, le Costa Rica ou les îles Marshall qui ne représentent que 10% des émissions mondiales de CO2, ce qui nous place sur une trajectoire de 3,2 degrés de réchauffement climatique à la fin du siècle. Autre point laborieux, les marchés carbone, c'est-à-dire le fait que les pays les moins pollueurs puissent revendre des quotas d'émissions aux gros pollueurs. Cette question qui traîne depuis les accords de Paris a encore été reporté à la prochaine COP à Glasgow, en Écosse, en novembre 2020. Pas d'accord non plus sur un sujet crucial, l'indemnisation des pays qui subissent déjà de plein fouet les effets du réchauffement à cause des plus gros pollueurs, montée des eaux, îles devenues inhabitables ou sécheresse. Demande refusée par les pays développés, les États-Unis mais aussi l'Europe. Il n'y aura donc pas de financement supplémentaire pour ces pays. Nous avons arraché le moins mauvais résultat possible, résume Laurence Tubiana, l'architecte des accords de Paris. Il n'y a jamais eu un aussi grand fossé entre les attentes des citoyens et les négociateurs.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
On a compris sur le fond beaucoup d'expertise. Que peut vraiment retenir la démocratie, l'opinion publique dans le détail? Sur la forme, est-ce qu'il faut revoir justement les échanges avec les citoyens? Eh bien, on fera un point sur ce sujet à 19h30 avec l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. C'est une histoire qui ne fait vraiment, vraiment pas honneur à ceux qui ont piraté une cagnotte mise en place sur Internet.
Une cagnotte pour venir en aide à la famille d'un pompier décédé dans un accident d'hélicoptère. C'était début décembre lors des inondations dans le sud. Plus de 30 000 euros avaient été collectés avant qu'on s'aperçoive il y a quelques jours que presque la totalité de cette somme avait été dépensée frauduleusement. Yasmina Katou.
Effectivement, et aujourd'hui, il ne reste que 600 euros sur les 30 730 récoltés. En quelques heures, le ou les hackers ont dilapidé la cagnotte en achat sur Internet. Les auteurs de ce détournement de fonds ont simplement piraté le mail qui a servi à créer cette cagnotte. Ils ont débloqué les fonds, les ont transférés pour pouvoir les dépenser. Aucun contrôle d'identité n'est nécessaire pour cette transaction. Alexandre Aubert, le sapeur-pompier qui gérait cette cagnotte, est écœuré.
Je suis totalement dégoûté que l'on ait fait ça envers quelqu'un qui n'est plus là, qui a rendu un service, qui a eu les hommages nationaux. pour une famille pour lesquelles l'argent allait être quand même un soutien attendu en cette période-là. Ça aurait été un beau cadeau. Et on espère qu'en ces fêtes de Noël, la société Litchi aura un petit geste en faveur de la famille.
La plateforme Litchi promet à Alexandre de tout rembourser, mais aucun délai n'a été donné. Une enquête est aujourd'hui en cours pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ce piratage. Aujourd'hui, ceux qui souhaitent faire un don pour la famille Savornin sont appelés à le faire par chèque.
Yasmina Katou, et puis on parle d'intempéries. Notez que 7000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir dans le sud-ouest.
Elle était une égérie de la nouvelle vague, évidemment, de Jean-Luc Godard, inoubliable aux côtés de Belmondo.
Anna Karina vient de mourir à l'âge de 79 ans et on peut parler de véritable icône, Nicolas Caro.
C'est la marque des grands mythes. Tout le monde connaît cette réplique sans même avoir forcément vu le film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Anna Karina y joue aux côtés de Jean-Paul Belmondo en 1965 et les dialogues de cette histoire d'amour sont devenus cultes.
Pourquoi t'as l'air triste ?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Anna Karina a tourné dans 7 films de Godard, avec qui elle s'est d'ailleurs mariée. Elle est née au Danemark sous le nom d'Anne-Karine Bayer. Elle débarque seule à 17 ans à Paris pour devenir actrice. Elle est assez vite repérée et c'est Coco Chanel qui la rebaptise Anna Karina. Elle tourne donc avec Godard, mais aussi Visconti ou Agnès Varda. Elle joue au théâtre aussi et puis elle chante en 67 une chanson de Gainsbourg notamment. Anna Karina incarnait le cinéma des années 60-70, on en a moins parlé ensuite, mais elle ne s'est jamais arrêtée de tourner et d'écrire et de chanter. L'année dernière, elle publiait encore un nouvel album intitulé « Je suis une aventurière ».
Nicolas Caro, pour ce très beau portrait.
Merci beaucoup Fabienne Lemoyle, Anna Karina qu'on entendra de nouveau dans une chanson dans la tête à 18h50 sur Europe 1. À la semaine prochaine Fabienne. Le point météo, c'est avec vous Laurent Cabrol ce soir et ça continue de souffler demain sur le sud-est, sur les Pyrénées en l'occurrence Laurent.
Effectivement Wendy, le temps demain se gâte près de la Manche avec l'arrivée de la perturbation qui est en train de remonter sur le pays et demain nous aurons de la pluie, surtout demain après-midi, sur toutes les côtes de la Manche et de la mer du Nord. En région parisienne, comme en Champagne-Ardenne, eh bien, les petites pluies du matin céderont la place à quelques rayons de soleil. Un coup d'œil maintenant sur le Languedoc-le-Roussillon et les Cévennes. Nous avons là en perspective de fortes rafales de vent autour de 90 à 100 km/h et surtout des pluies qui vont arriver de la mer. Nous changeons de système. Nous arrivons maintenant à un système de Cévenol, d'épisode Cévenol, qui sera de faible intensité, mais enfin il sera là demain. Quant aux températures, eh bien, c'est encore la douceur qui domine pour la journée de demain, entre 11 et 18 degrés, et 18 à Marseille, autour de 14 à Paris, vous voyez que c'est quand même très doux, et 11 degrés à Caen et à Lille.
Merci Laurent Cabrol et à tout à l'heure 18h30 pour la météo des neiges. À suivre Wendy dans le Grand Journal du Soir.
Comment s'y retrouver dans le rapport de force syndicale entre la CGT, Sudrail, Inflexible et la stratégie des syndicats dits réformistes? Bernard Vivier, spécialiste des mouvements sociaux, nous éclaire sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1, le Grand Journal du Soir.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir sur Europe 1 et en synthèse de ce week-end, un éclairage sur le rapport de force syndicale dans ce dossier des retraites.
Oui, qui mène la danse au fond? Quel poids ont aujourd'hui les syndicats qu'on appelle réformistes et une conciliation est-elle possible? Bonsoir Bernard Vivier.
Bonsoir.
Merci de venir nous éclairer. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail et spécialiste des mouvements sociaux. Les syndicats, on les avait oubliés l'an passé, il faut le dire, pendant la longue séquence des Gilets jaunes. Ils sont partout aujourd'hui dans tous les médias à l'occasion de cette réforme. Comment vous l'expliquez, Bernard Vivier ?
Écoutez, ce que l'on vit, c'est en effet le titre d'un film, le grand retour des organisations syndicales, et c'est une bonne chose. Nous avons vécu avec les affaires des Gilets jaunes pendant une année, une grande souffrance sociale, mais illustrée par des violences, des morts, des blessés. Nous venons de vivre à deux reprises, là tout récemment, de grosses manifestations syndicales qui se sont déroulées sans heurts. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, aussi bien en direction du gouvernement qu'en direction des salariés, de la base, comme on dit, les organisations syndicales sont des structures équipées pour gérer les problèmes. Et nous voyons aujourd'hui, finalement, un phénomène social pris en main, enfin, par les syndicats, qui ont à se battre sur trois fronts. Le front du gouvernement, Donc c'est la querelle, la guerre des égaux oui. entre Laurent Berger, le président de la République. C'est les ajustements inévitables à mener aujourd'hui dans les jours qui viennent. Deuxièmement, c'est les gilets jaunes qui ont un peu déteint sur le fonctionnement des organisations syndicales, qui n'arrivent pas toujours à tenir leur base. Mmh. Et puis, troisièmement, c'est les fédérations. Certaines fédérations ne veulent pas, à l'intérieur des organisations syndicales, suivre les mots d'ordre. Il y a souvent un grand pas entre ce que peut dire Philippe Martinez, Laurent Berger, Yves Verrier de Force ouvrière ou d'autres leaders, et puis les responsables syndicaux dans les entreprises, notamment SNCF ou RATP.
Ça, c'est intéressant parce qu'on assiste aussi à une personnalisation vraiment de ce conflit. La CGT a perdu sa place de premier syndicat de France, mais Philippe Martinez est partout, comme en face Laurent Berger. Avec Martinez, on est dans le camp, si j'ose dire, et si j'ose reprendre l'expression, des Gaulois réfractaires. On est dans une dénonciation inflexible face au gouvernement. C'est un syndicat qui ne veut pas lâcher, Bernard Vivier.
Oui, le gouvernement ne peut pas compter faire revenir la CGT et Sud et la FSU autour de la table pour une discussion, une concertation. Il est clair que l'issue de ce conflit se fera avec la CFDT, mais aussi avec l'UNSA, la CFTC, probablement aussi la CFE-CGC. Et mettons bien le doigt sur l'UNSA. L'UNSA est la première organisation syndicale à la RATP, à jeu quasiment égal avec la CGT. Elle est très importante à la SNCF. Elle fait 23%. C'est la deuxième organisation. Et elle grandit à l'intérieur de la SNCF. Et puis, elle est également très, très présente dans l'éducation nationale. C'est un acteur central.
L'UNSA qui est importante aussi si l'on s'intéresse aux cheminots conducteurs. C'est-à-dire que si l'UNSA tend la main, accepte la main tendue du gouvernement, en tant que syndicat réformiste, réformateur, le mouvement de blocage actuel peut être vraiment allégé pour vous, Bernard Vivier ?
Oui, mais pas l'UNSA toute seule. L'UNSA toute seule n'a pas les moyens de faire reprendre l'activité dans le pays. Il faut effectivement ce dispositif qui engerbe CFDT, UNSA, CFTC et peut-être aussi CFE-CGC pour avoir une sorte d'accord tacite ou de laisser-faire de nil obstat de Force ouvrière.
Oui, si on regarde juste les syndicats maintenant et pas simplement le contenu des revendications, pourquoi et pour qui a-t-on intérêt à ce que le conflit dure le plus longtemps possible ? Aujourd'hui, pour la survie de la CGT ?
La survie, le mot vous appartient, mais en tout cas, avec ce conflit, il est clair que Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est redevenu un personnage central de l'actualité sociale, au point d'avoir presque effacé pendant quelque temps Laurent Berger de la CFDT. N'oublions pas que si la CGT est en audience la deuxième organisation syndicale, elle est en termes d'appareil de mobilisation, de savoir-faire pour monter des manifestations ou des grèves, et de loin la première organisation. C'est la logique organisationnelle, pour utiliser un vocabulaire un peu pédant, mais la logique organisationnelle de la CGT est très forte.
Elle revendique aujourd'hui la CGT 650 000 adhérents. Et à l'instant, Philippe Martinez le dit, si le gouvernement retire son projet, alors tout se passera bien pour les fêtes de Noël. Si le gouvernement ne recule pas, ce sera compliqué, en effet, pour reprendre votre argumentaire sur la base de la CGT, de faire confiance à son leader demain.
Oui, et Philippe Martinez, déjà depuis plusieurs années, est obligé un peu de suivre sa base. Ça ne veut pas dire que la base est révolutionnaire, est en rupture. Elle est très centrée sur ses intérêts propres. Et la CGT est une addition de fédérations, très souvent dans le public, dans la fonction publique. Et la logique même de la réforme, qui est de créer un système universel de solidarité entre les générations, cela va sans dire, mais aussi entre catégories de travailleurs, jusqu'aux indépendants, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, cette logique-là échappe évidemment à ceux qui sont dans des fédérations de la CGT, qui bénéficient, et tant mieux pour ces fédérations, mais c'est coûteux, d'un statut qui les privilégie.
Bien sûr. Bernard Vivier, Édouard Philippe s'apprête à recevoir les syndicats mercredi à Matignon, mais il ne reçoit que les syndicats réformateurs, donc pas la CGT, pas Sudrail, qui était à votre place hier, qui réagissait. Donc le dialogue social dont on parle tant, c'est un dialogue limité ou alternatif.
Vous avez dit à l'instant, enfin tout à l'heure, que Philippe Martinez souhaitait une chose, que le gouvernement retire son projet. Mais c'est croire au Père Noël, c'est bien, la période est bienvenue en ce moment, mais Enfin, sauf les tout petits enfants, on sait bien que le Père Noël n'existe pas. Donc on ne voit pas le gouvernement céder sur une réforme qui est souhaitée par le gouvernement, mais aussi souhaitée par la CFDT, par les autres organisations. Donc autour de la table viendront ceux qui voudront négocier, discuter, dialoguer avec le gouvernement.
Oui, et là on risque d'être de posture face à d'autres postures. Nouvelle grande manifestation de force mardi, entre 800 000 Français et 1 million dans les rues pour la première grande journée de grève il y a 15 jours. On sera évidemment attentif à voir l'ampleur de la manifestation. Ça peut se jouer en numéraire aussi, si elle s'essouffle, ça voudra dire quelque chose, Bernard Vivier ?
Oui, c'est le chiffre que vous donnez, c'est la première manifestation. Oui. La deuxième a recueilli à peu près 300 000, 350 000 personnes. Tout ça sont les chiffres de la police, donc on peut, si on le veut, les grandir, les faire grandir. Mais la deuxième manifestation a eu beaucoup moins de manifestants que la première.
Merci Bernard Vivier. Bien, on se rappellera régulièrement pour suivre avec vous le mouvement social qui nous intéresse en ce moment. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci Bernard.
Il est 18h22, Wendy Bouchard, l'heure du journal des sports sur Europe 1.
Présenté par Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Wendy.
Et à la une de ce dimanche 15 décembre.
Cinq jours après les incidents qui ont terni leur qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions, les Lyonnais retrouvent leur public à l'occasion de la réception de Rennes. Que reste-t-il de la colère des supporters et des joueurs? Ressentiment ou indifférence? Réponse dès le début de ce journal. La Champions Cup de rugby, Clermont peut encore accrocher la première place de son groupe, mais il ne faudra rien céder jusqu'au bout. Il attendait ça depuis 5 ans. Autant dire une éternité. Alexis Pinturo, vainqueur du slalom de Val d'Isère. Le Français prend la tête du classement de la Coupe du Monde.
18e journée de Ligue 1 et un match en cours entre Lyon et Rennes, une rencontre disputée dans un climat particulier.
On se souvient des larmes de rage du capitaine Memphis Depay. Le capitaine s'était opposé à une partie des supporters lyonnais pour défendre son partenaire Marcelo, cible des sifflets et des insultes. Depuis, chacun a fait un pas vers l'autre. La réception de Rennes est l'occasion d'une grande réconciliation. Encore faut-il gagner. On retrouve Maxime Schoch, l'un de nos correspondants au Parc OL. Maxime, quelle tournure prend cette rencontre ?
Bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, pour le moment 0 à 0 après 60 minutes de jeu ici entre Lyon et le Stade Rennais. En tout cas du côté des supporters, c'est l'union sacrée derrière les joueurs. On ne veut pas gâcher la fête puisque ce match était placé sous le signe de la fête. On honore Bernard Lacombe, légende du club qui prend sa retraite. Mais pour le moment cette rencontre est bien pauvre à la fois dans le jeu, aussi bien également par rapport aux occasions. Et ce sont les Rennais qui se sont procurés les bien meilleures occasions de cette rencontre, avec notamment la demi-heure de jeu à coup franc de Benjamin Bourigeaud, et là une nouvelle frappe à l'instant de Léa Siliki pour les Rennais. Mais Benjamin Bourigeaud à la demi-heure de jeu qui avait cadré un coup franc. Il a fallu un Anthony Lopez des grands soirs pour éviter à son équipe de concéder un but. Et donc pour le moment c'est 0 à 0 avec Bertrand Traoré qui a bien failli provoquer un penalty il y a de ça 10 minutes, mais donc toujours 0-0 entre Lyon et Rennes.
Maxime Schoch en direct du Parc OL. Nous ferons un nouveau point dans le journal des sports de 19h cet après-midi. Bordeaux s'est incliné 1 à 0 à domicile face à Strasbourg. Ce soir, le dernier match de cette 18e journée opposera Saint-Etienne au PSG. Coup d'envoi prévu aux alentours de 21h. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Tout est à suivre à partir de 20h dans Europe 1 Sport. Le PSG qui connaîtra demain son adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et c'est pas impossible qu'il y ait un peu de fébrilité en coulisses côté parisien.
Il y a un véritable syndrome depuis les éliminations, on le sait, contre Manchester United et puis la remontée contre le Barça il y a quelques années. Alors ce soir, en effet, le match contre Saint-Etienne a une importance relative parce que les dirigeants et les joueurs du Paris Saint-Germain vont tout simplement surtout penser au tirage de demain et à passer ce cap psychologique des huitièmes de finale. Ça fait 4 ans que le club n'a pas passé le cap des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est l'objectif principal du PSG. Il y a un véritable syndrome et du coup, ils vont beaucoup trembler et ils peuvent tomber contre des équipes comme Tottenham avec José Mourinho à la tête de ce club, finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Chelsea ou encore le Borussia Dortmund. Donc ça va être vraiment très important, un moment très important demain sur le papier, mais également pour la suite du Paris Saint-Germain.
À tout à l'heure, 20h sur Europe 1, Lionel Rousseau. Merci. En rugby maintenant, Christophe Lamar, Champions Cup, une quatrième journée presque cruciale pour Clermont.
Cruciale, mais réussie pour les Clermontois qui s'imposent 52 à 26 face à Bath. Bonus offensif en prime. Les Auvergnats ont passé une bonne journée à plus d'un titre. N'est-ce pas Damien Tardieu ? Vous êtes notre envoyé spécial au stade Marcel Michelin.
Exactement, mission accomplie, c'est la route des quarts de finale qui s'ouvre un petit peu plus pour l'ASM. Au final, une large victoire bonifiée, 52 à 26, 8 essais à 4, un succès que les Auvergnats ont construit essentiellement en première mi-temps. Rendez-vous compte, Clermont avait déjà le bonus en poche après 20 minutes. Alors ça a été moins flamboyant en seconde période, mais c'est anecdotique finalement. Grâce à ces 5 points, l'ASM revient à un petit point de l'Ulster, le leader de cette poule 3. Cela nous promet un ASM Ulster décisif pour la première place de la poule et un éventuel quart de finale à domicile. Ce sera le 11 janvier prochain, ici au Michelin.
Damien Tardieu en direct du stade Marcel Michelin.
Le slalom de Val d'Isère consacre un roi français. Alexis Pinturo était bien le plus fort ce matin.
Il a descendu la face de Bellevard plus vite que tout le monde. À 28 ans, le champion du monde du combiné est peut-être au sommet de son art. Le français fait coup double ce week-end. Vainqueur du slalom, son premier depuis 5 ans, il prend la tête du classement de la Coupe du Monde. Alexis Pinturo.
Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ça fait longtemps que j'avais pas gagné en slalom. L'an dernier, on s'était bien reconcentré dans cette discipline. Et puis, ça a fini par payer, notamment cette année. Ouais. Actuellement, je me sens bien et heureux, surtout d'avoir réussi à aller chercher cette victoire devant le public français.
Ouais. Alexis Pinturo, vainqueur du slalom de Val d'Isère. Chez les femmes, la Slovaque Petra Vlova s'offre le slalom parallèle de Saint-Moritz devant la Suédoise Anna Sven Larsson et l'Autrichienne Franziska Gritsch.
Pour terminer, en bref, le reste de l'actu.
La Coupe du monde de biathlon, la Norvège de Johannes Bø remporte le relais masculin d'Osfilsen en Autriche. Elle devance l'Allemagne et la France. Le relais français qui avait laissé au repos deux de ses têtes d'affiche, Martin Fourcade et Simon Détieux. Et puis les Néerlandaises, championnes du monde de handball pour la première fois de leur histoire. Elles ont battu l'Espagne 30-29 en finale. Ce matin, la Russie prend la troisième place.
Merci Christophe Lamarre. À tout à l'heure, 19h pour l'info des sports.
Et dans un instant, le rappel des titres de l'info, suivi de la météo des neiges de Laurent Cabrol. Et puis on va en entendre parler, Wendy.
Demain, lundi, la grève des routiers, eux aussi partent au combat. On vous explique leurs revendications sur Europe 1.
18h-20h, Wendy Bouchard.
18h30, le grand journal du soir, la suite, Wendy Bouchard.
Et si vous nous rejoignez, voici un nouveau point sur l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. L'ultimatum de la CGT au gouvernement ce soir. Si le projet de réforme des retraites est retiré, tout se passera bien à Noël et il y aura des trains, déclaration de Philippe Martinez, et qui précise que les grévistes décideront de la suite du mouvement jeudi ou vendredi. Et demain, 12e journée de grève dans les transports, un nouveau beaucoup de perturbations avec un TGV sur 3, un TER sur 3, un Transilien sur 4. À Paris, 8 lignes de métro sur 16 seront fermées. Le trafic sera partiel sur les autres. Il y aura également un RER A sur 2 et un train sur 3 sur la ligne B. Le bilan des intempéries de vendredi dans le sud-ouest s'alourdit. Il fait état à présent de 3 morts. L'homme porté disparu depuis vendredi soir dans les Landes a été retrouvé dans sa voiture. 4 départements du sud-ouest, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Gers et les Landes restent en alerte orange aux inondations. Et en parallèle, les agents d'Enedis sont toujours à pied d'œuvre pour rétablir le courant après les vents violents. 7000 foyers sont toujours privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Le chef de l'ONU se dit déçu par la COP25 et regrette une occasion ratée. Un accord à minima a été adopté en fin de la conférence à Madrid. Le besoin d'agir pour le climat a été souligné. En revanche, pas d'entente sur les règles des marchés carbone internationaux, le dernier volet des accords de Paris.
Merci Sophie, à tout à l'heure 19h pour le journal.
Avec les pneumatiques hiver Hankook, assurez-vous de glisser sur les pistes, mais pas sur la route. Hankook vous présente la météo des neiges.
Oui, je ne sais pas comment on va glisser, en tout cas le temps sur les massifs, qu'est-ce que ça donne demain Laurent Cabrol?
Sinon, on doit retenir l'essentiel pour la montagne demain, sur les massifs montagneux dans l'ensemble. Ce sera un ciel voilé, alors sur les Vosges, le Jura, les Alpes, Alpes du Nord, Alpes du Sud, un ciel voilé avec des températures positives dans les stations en général, autour de 2, 3, 4 degrés à 1800 mètres. Vous voyez donc que c'est la douceur qui domine et bien sûr, ce sont les vents de sud qui l'emportent. Dans les Pyrénées, attention quand même, parce que les vents vont se renforcer fortement et ils vont atteindre les 110 km/h sur les crêtes, 100 km/h en piémont pyrénéen. Donc là aussi, prudence dans ce secteur, avec partout des risques d'avalanche qui sont bien sûr très importants compte tenu de la douceur des températures.
Et merci Laurent Cabrol. Allez, on va en entendre parler sur Europe 1.
On va en entendre parler, l'actualité qui se programme et on en parle avec Naïma Bencheman. Bonsoir Naïma.
Bonsoir Wendy.
Demain, un fait judiciaire, ça se passe en Irlande.
La haute cour se prononcera demain sur la demande d'extradition de Ian Bailey, un Britannique accusé du meurtre de la productrice de cinéma Sophie Toscan-Duplantier, retrouvée morte en 1996 en Irlande.
Une décision très attendue par la France.
Au mois de mai dernier, lors de son procès, il avait été condamné par la France à 25 ans de prison, mais ce dernier n'avait pas assisté à son procès en raison du refus refus de l'Irlande de l'extrader, justement.
Affaire à suivre donc. Mardi, troisième journée interprofessionnelle de grève et de manifestation contre la réforme des retraites.
Avec la participation cette fois-ci de l'UNSA et de la CFDT, dont le leader Laurent Berger s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du JDD, en précisant qu'il n'appelle pas à manifester le 19 et qu'il ne souhaite pas de blocage pour Noël.
C'est entendu. Mercredi, on va au cinéma et on va voir quoi ?
Pour voir Parole de bandit, un documentaire qui nous alerte sur la situation plus que préoccupante des migrants dans la vallée de Roya, entre la France et l'Italie. Cette frontière a été fermée en 2015 suite à l'afflux massif de migrants et cette région, elle est devenue le symbole de l'insoumission.
Pourquoi, finalement ?
Car dans cette vallée, la solidarité des habitants est devenue un acte de résistance, Wendy. Mmh. La majorité des habitants aident les migrants bloqués à Vintimille à passer les barrages et à déjouer les contrôles de sécurité.
C'est complètement illusoire de penser qu'avec tout un escadron de CRS ou autres gendarmes, on va pouvoir rendre hermétique une frontière. S'ils veulent passer, ils passeront. Ce sera plus difficile, il y aura plus de blessés, il y aura plus de morts, mais ils passeront.
À travers le récit de celles et ceux qui sont dans l'illégalité pour faire respecter des droits fondamentaux, Parole de bandit est un véritable message d'espoir.
Jeudi, Naïma, on va en entendre parler en Angleterre cette fois.
La reine Elisabeth II s'exprimera devant le Parlement pour présenter le programme du gouvernement de Boris Johnson, le Premier ministre que la reine a reçu au palais de Buckingham vendredi dernier après sa très large victoire aux élections législatives qui ouvre la voie au Brexit.
Dimanche, la musique avec Mika, il sera à l'Accor Hôtel Arena de Paris.
Ça sera d'ailleurs son unique show parisien, mais Relax, il devrait y interpréter ses plus grands titres et aussi ceux de son dernier album sorti en septembre dernier, un album intitulé My Name is Michael Holbrook, un opus très intimiste, imprégné des émotions de sa vie et de son histoire familiale.
Et puis dimanche, Naïma, début de la fête juive Hanouka.
Dans la nuit de dimanche à lundi, toutes les familles juives célébreront Hanouka, la fête des Lumières, et à quelques semaines de Noël, ces festivités seront l'occasion de s'offrir des cadeaux et surtout d'utiliser le chandelier à neuf branches.
Avec ses petites lumières contre l'obscurantisme, chaque flamme étant une lumière dans la nuit. Joli symbole. Merci Naïma Benchemal.
Merci Wendy.
18h36, à suivre Wendy Bouchard.
On va en entendre parler l'interview, la grève des transporteurs routiers demain, réaction à la réforme des retraites et à la considération de la profession par le gouvernement. Puis 18h50, c'est un bon rendez-vous fétiche.
Et oui, une chanson dans la tête avec Fabien Lecoeuvre et Gainsbourg aujourd'hui qui a fait chanter les actrices et notamment Anna Karina. 18h38, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1. Et on va en entendre parler demain, lundi, à la grève des chauffeurs routiers.
Quatre syndicats du transport routier et de la logistique entrent dans la danse de la contestation sociale. Ils s'inquiètent pour leur retraite. Ils dénoncent aussi la pénibilité de leur métier, pas assez rémunéré, fortement concurrencé. Des routiers qui manifesteront demain devant le siège de votre fédération. Bonsoir Florence Berthelot.
Bonsoir.
Vous êtes madame déléguée générale de la FNTR, la Fédération nationale des transporteurs routiers, qui représente 44% des entreprises, des salariés, des flottes de camions français. Le premier syndicat de la branche, la CFDT, a appelé à des actions, à des rassemblements, à des blocages dans toute la France. Est-ce que vous savez ce soir si ce mouvement, d'abord, sera assez suivi ?
Nous n'avons pas de visibilité à ce jour pour voir si cette grève sera très suivie. Elle s'inscrit dans un mouvement général que tout le monde connaît. En fait, les conducteurs routiers bénéficient d'un dispositif qui existe depuis 1996 qui permet sous certaines conditions d'arrêter leur activité de manière anticipée, à partir de 57 ans. Et il est vrai que ce dispositif, qui doit être revu, et cela fait longtemps que les partenaires sociaux doivent le revoir, est bien entendu impacté par l'âge de la retraite. Par l'âge légal, pas par l'âge pivot. Donc je pense que là, nous avons besoin d'en parler entre partenaires sociaux pour regarder les points d'équilibre.
Les transporteurs routiers ne sont pas assez entendus par le gouvernement et par les patrons, Florence Berthelot ?
Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas entendus de la part des organisations patronales. Nous avons eu un dialogue social dynamique cette année. Nous avons conclu des accords majeurs, y compris en termes de rémunération. Il y a effectivement des dossiers sur lesquels le gouvernement doit également prendre position, notamment sur le congé de fin d'activité.
Oui.
Et je pense que ce mouvement s'inscrit moins contre les organisations patronales que en termes d'interrogation en direction du gouvernement.
Oui, avec beaucoup de questions sur l'avenir même du métier. Quel est le salaire moyen d'un chauffeur en fin de carrière, Florence Berthelot, pour qu'on se fasse une idée ?
Le salaire médian, et pas forcément en fin de carrière, mais le salaire médian est de 2 200 euros. Mais il va de soi qu'il peut être plus élevé pour des salariés en fin de carrière qui font de la zone longue.
Oui, cela dit, je disais que le métier va mal. Pénurie de main-d'œuvre à hauteur de 50 000 salariés. Donc l'urgence aujourd'hui pour vos représentations, notamment, c'est de recruter.
Bien sûr, nous recrutons et nous avons déployé à plusieurs organisations et organismes professionnels des actions dans toutes les directions. Nous travaillons avec Pôle emploi pour effectivement trouver des candidats que nous formons, quel que soit, je dirais, leur niveau de diplôme ou de non-diplôme. Il y a vraiment de la place pour des conducteurs, mais aussi pour d'autres postes dans ce secteur. Avec des perspectives d'évolution.
Il y a une réalité aussi dénoncée par les syndicats grévistes qui s'engagent dans le mouvement dès demain, c'est la recrudescence des arrêts de maladie à cause de la pénibilité du métier. Là, on les entend, c'est assez tangible, Florence Berthelot ?
Non, pas forcément. Nous avons travaillé sur la pénibilité et si l'on voit qu'il y a effectivement certains postes qui peuvent être marqués par la pénibilité, notamment le travail de nuit, par exemple aujourd'hui, sont mal appréhendés. Tout ce qui concerne la livraison urbaine, avec les difficultés de livraison en ville, de congestion. Et peut-être que ces points-là doivent être mieux abordés, et on les voit particulièrement à l'occasion de cette grève.
Oui, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui justifient ces mouvements. Il y a 10 jours, nos auditeurs se souviennent, on parlait de ces opérations de blocage des routiers qui protestaient contre la hausse de 2 centimes de leur taxe sur le gasoil dans le projet de loi de finances pour 2020. Des routiers qui s'estiment toujours désavantagés, notamment par rapport à leurs concurrents étrangers, qui eux ne payent pas ces taxes et qui ne contribuent pas à l'entretien des infrastructures routières en France. Il y a ce problème aussi qui se pose, et on va y venir en termes européens.
Tout à fait. C'est un gros problème. Il faut savoir que le transport routier français a perdu près de 85% de parts de marché à l'international depuis plus de 20 ans. Ouais. Et c'est un drame pour ce secteur. Et quand on voit le gouvernement, qui est parfaitement au fait de cette perte de compétitivité, venir aggraver la fiscalité sur le gazole en France, il nous tire encore une balle dans le pied, puisqu'on sait que plus de 75% des véhicules étrangers qui transitent par notre pays ne se servent pas en carburant en France et donc ne seront pas taxés.
Oui. Et on a des routiers qui disent, et j'imagine que pour vous c'est justifié, on est comme les agriculteurs, on nous fait toujours passer pour les méchants et aujourd'hui ça suffit. C'est aussi le mot d'ordre, finalement, de ce mouvement de demain.
Absolument. C'est bien. En fait, vous parliez du problème d'attractivité. Nous, on considère que le discours public autour de notre secteur est aussi un handicap à notre compétitivité. On nous fait passer pour un secteur pollueur, malgré les efforts considérables que nous avons faits en termes de pollution et de transition énergétique. Insécure, alors qu'en matière de sécurité routière, nous ne cessons de faire des progrès, puisque c'est une priorité pour les transporteurs. Nous sommes un secteur stratégique. Si le transport s'arrête, tout s'arrête dans notre pays. Il faut un moment arrêter un petit peu de nous taper dessus ou de faire du camion bashing et de regarder l'utilité sociale et économique de notre secteur.
Face au dumping social qui a aussi été souligné par les pays de l'Ouest, des transporteurs de France, d'Allemagne, du Benelux, qui accusent notamment les pays d'Europe orientale, de la Roumanie à la Hongrie, de la Pologne à la Lettonie, d'avoir une vision beaucoup plus souple justement de la législation. Cette semaine, au Parlement, les négociateurs européens sont parvenus ou seraient parvenus à un accord qui pourrait vous satisfaire, Florence Berthelot ?
Oui, il s'agit d'un compromis dans le cadre de ce qu'on appelle un trilogue entre le Conseil des ministres, entre la Commission et le Parlement. Et je dirais que sur 90% de ce compromis, nous sommes satisfaits avec, bien entendu, l'ensemble des pays dits de l'Alliance du routier qui, il est vrai, représentent des pays qui sont proches de la philosophie de régulation que nous avons en France.
Oui.
Donc, il reste maintenant encore un passage au Parlement de vote qui va être extrêmement intense parce qu'il y a une action forte d'influence des pays qui sont insatisfaits de ce compromis. Et une fois qu'il sera passé, il faudra donc le faire rentrer dans les faits. Bien entendu, il y aura un décalage de temps par rapport aux problèmes immédiats de concurrence que nous rencontrons dès aujourd'hui.
Bien sûr. Si on revient au mouvement social du moment, Florence Berthelot, et à cette grève des routiers qui s'annonce demain, pour vous, si le gouvernement ne recule pas, ne gèle pas la réforme, ce conflit peut durer, les transporteurs peuvent se mettre durablement en grève ?
Je pense qu'il faut distinguer le problème général de la question des retraites avec celui qui est particulier au secteur du transport routier. De ce que nous avons vu, des annonces faites par les organisations syndicales qui se mobiliseront demain, il y a beaucoup de choses que nous pourrons traiter entre partenaires sociaux du secteur.
D'accord.
Et il faut garder espoir que des discussions puissent aboutir.
Pour éviter d'ajouter du blocage au blocage.
C'est cela, d'autant que le secteur du transport dans son ensemble commence à souffrir durablement lui aussi de ces grèves.
Oui.
Dans la mesure où effectivement les livraisons deviennent très compliquées, notamment en zone urbaine, à cause de la congestion et des embouteillages.
Merci Florence Berthelot. Voilà pour cette lecture de l'actualité à la veille de cette grève des chauffeurs routiers. Vous qui parliez en tant que déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers. Merci Florence Berthelot.
Merci à vous.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard sur Europe 1. Des performances exceptionnelles pour une sécurité maximale, les pneumatiques Hankook vous présentent Tout roule.
Et voici Tout roule, le magazine Auto d'Europe 1, chaque dimanche soir avec vous, Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une de Tout roule, branle-bas le combat chez Opel. Nouveau DG, nouvelle gamme. L'essai de la semaine, la nouvelle Peugeot 208. Mm-hmm. Et puis un petit édito à la fin pour changer.
Voici d'abord le dossier de la semaine, le renouveau d'Opel.
Ben oui, c'est un peu la blague. Hein. En France, qui roule en Opel ? La marque n'est pas très aimée. On lui préfère Peugeot, Renault, Citroën, on est chauvin. Mais en Europe de l'Est, c'est l'inverse. Hein. On préfère faire confiance à une marque allemande. Et c'est bien là toute la stratégie de Carlos Tavares, le patron de PSA, proposer in fine la même voiture, sous des badges différents, pour contourner les idées reçues dans un pays ou un autre. Ainsi, Opel a pour nouveauté la Corsa, qu'on dessert bientôt ici dans Tout roule. Opel en France, c'est 3% du marché, on aimerait grimper à 5%. On mise sur les utilitaires et sur les flottes d'entreprises. On va vite proposer des hybrides et des électriques. Et pour rendre Opel plus glamour, c'est ce qui lui manque. Hein. Bah, comme avec la Mini, comme avec la Fiat 500, les bureaux de style vont s'inspirer des modèles emblématiques du passé. Et c'est ce que nous dit justement le tout nouveau DG d'Opel, Stéphane Le Guével.
En fait, quand vous regardez la façon dont travaillent les designers, ils vont souvent chercher dans le passé, dans l'histoire, de la marque, des sources d'inspiration pour dessiner les modèles du futur. Et c'est exactement ce qui se passe avec la marque Opel, puisque avec le rachat par PSA, nous avons finalement libéré les énergies de nos designers et ils sont allés chercher, notamment chez l'Opel Manta, une source d'inspiration pour dessiner les Opel du futur.
Stéphane Le Guével qui a donc pour mission de rebooster la marque Opel en France.
On passe aux news de la semaine, Pierre.
Et oui, beaucoup de news en électrique avec le projet d'usine de batterie dans les Hauts-de-France en partenariat avec PSA. BMW qui gagne un contrat de 540 millions d'euros sur 5 ans avec le chinois Ganfeng pour ses batteries. Mm-hmm. Et puis Ferrari qui, contrairement à Porsche, ne présentera pas de voiture électrique avant, tenez-vous bien, 2025.
Alors cette semaine, vous avez essayé, et vous allez nous dire ce que ça donne, la nouvelle Peugeot 208.
Elle est très attendue, cette nouvelle 208. Elle fait totalement table rase avec la 208 que vous connaissiez jusqu'à présent. J'ai eu un bonheur, un vrai bonheur à la conduire, parce que c'est facile. Tout est facile. C'est une auto qui se conduit toute seule. Le train roulant est remarquable. La tenue de route avec. Le confort est bluffant. L'insonorisation totale. Et en boîte auto avec le 1,2 litre 130 chevaux essence, on se laisse pousser des ailes. Pourtant, 130 chevaux, bah, c'est pas une GTI non plus. Mais c'est largement suffisant. On a vraiment un dynamisme sans égal.
Conquis, devine-le.
Complètement. À l'intérieur, c'est une 3008 en miniature. Donc, il y a le e-cockpit, oui. Le tableau de bord futuriste avec en plus sur cette version des compteurs en 3D. Alors là, c'est la guerre des étoiles. Et souvenez-vous, dans les années 80, la 205 avait eu plus de succès que la Super 5 Renault. Ça risque d'être ténu hein, pour cette fois, car les Français sont très attachés à leur Clio, qui n'a presque pas changé dans la cinquième génération. On l'a vu ici dans Tout roule. C'est là que cette nouvelle 208 peut lui damer le pion avec, encore une fois, un changement bénéfique totalement glamour. On attend maintenant la i208, la version électrique.
Pour la 208, c'est gagné la Peugeot 208 avec vous, Pierre. Et on va terminer, une fois n'est pas coutume, avec une petite réflexion.
Ben oui, parce que ce sont les grèves, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de voitures dans les rues et sur les grands axes. Et le CNPA, le Conseil National des Professions Automobiles, a posté un dessin, un petit dessin, un peu à la Magritte. On voit une esquisse de voiture. Oui. Et dessous, c'est écrit « Ceci est un transport public ». Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'en période de grève, malgré le car bashing, malgré le fait que disent « la voiture, c'est pas bien, la voiture, ça pollue,
la voiture, ça encombre »,
on est bien content de l'avoir. Donc, réflexion faite, arrêtons ce car bashing parce qu'effectivement, une voiture, c'est un transport public.
Et oui, notamment le avec covoiturage voilà, qui n'a cessé d'être porté au nu par le gouvernement. C'est dit, c'est fait. Merci Pierre de Villeneuve.
Merci.
Rendez-vous dimanche prochain et demain pour Europe Midi.
C'était Tout roule avec les pneumatiques Hankook. Sécurité, adhérence, longévité. Faites confiance aux pneus 4 saisons Hankook. Sûr et performant, tout le temps et par tous les temps. Et voici maintenant le rendez-vous culturel et musical du 18-20 sur Europe 1. Une chanson dans la tête, Wendy Bouchard.
Il nous a rejoint. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On va honorer une femme en chanson, mais d'autres artistes femmes aussi. Et cette chanson, pour commencer, extraite du téléfilm Anna. Écoutez.
Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps.
Janvier 1967,
mais surtout Anna Karina, c'est une belle histoire, c'est un beau conte de fées, puisqu'elle avait commencé sa carrière au Danemark, commencé sa carrière en faisant des photos pour le magazine Elle, dans l'agence de Catherine Harvey, à l'époque. Et puis elle est repérée par Godard, d'abord parce qu'elle refuse un premier rôle dans À bout de souffle, en 1960. Et à partir de là, il la repère, il l'épousera l'année suivante, en 1961, on oublie de le rappeler. Et puis à partir de là, elle commence sa carrière évidemment au cinéma et bien sûr en chanson, puisque très vite, Gainsbourg lui propose de lui écrire tout simplement les chansons d'une comédie musicale Anna en 13 épisodes, qui démarra le 13 janvier 1967 sur la première chaîne de l'ORTF. Et c'est un énorme succès, et surtout la chanson qui positionne bien évidemment tous les acteurs du film. Il y a Jean-Claude Brialy et aussi Gainsbourg.
Ils chantent tous, hein, et tous. Il a écrit des pépites pour ce téléfilm.
C'est un film comédie musicale, on va dire. C'est-à-dire qu'avec et feuilletonné comme ça, d'une certaine manière. Et la France découvre en noir et blanc, pour la première fois, évidemment, beaucoup d'acteurs, de jeunes talents débutants, dans cette fameuse comédie musicale.
Et de très belles chansons, Boomerang, Un poison violent, c'est ça l'amour.
Absolument.
Et puis, évidemment, Sous le soleil.
Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous.
Anna Karina, quand on y pense, elle qui chante depuis le berceau, disait-elle dans une interview, c'était une femme parfaite pour Gainsbourg.
Absolument,
dans sa fragilité.
Dans sa fragilité, magnifiquement filmée par Pierre Koralnik, le réalisateur évidemment de ce fameuse comédie musicale. Et puis surtout, cette comédie musicale marque le début et l'association de Serge Gainsbourg avec Michel Colombier. Michel Colombier, c'est des chansons pour Barbara, c'est de Petula Clark, enfin, c'est beaucoup d'artistes, y compris Prince et Madonna, on oublie de le rappeler. Donc, grande collaboration très importante pour la suite de leur carrière respective.
Ça nous donne l'occasion, cher Fabien, de parler des autres actrices que M. Gainsbourg a fait chanter. Pas forcément pour leur timbre, pas pour leur voix, mais pour leur timbre souvent.
Il a été très inspiré par les femmes, d'une manière générale, mais surtout par la sensualité, notamment de Catherine Deneuve.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après.
Chanson magnifique, extraite elle aussi d'un film, Fabien Lecoeur.
Le film de Claude Berry, Je vous aime. Gainsbourg était très dépressif à cette période de sa vie en 1979. Et puis, il sortait d'un gros succès avec Aux Armes, etc. Mais dépressif, il n'allait pas bien dans sa vie, les premiers soucis de santé. Et Claude Berry lui propose de lui faire tout simplement d'écrire toute la bande originale du film Je vous aime. Dans Je vous aime, il y avait Alain Souchon, il y avait Jean-Louis Trintignant, il y avait Catherine Deneuve, il y avait Gérard Depardieu, bien sûr, et Serge Gainsbourg qui tenait aussi un des précédents maris de Catherine Deneuve dans le film. Et alors, moi j'étais là le jour de l'enregistrement au studio Ferber, il se trouve, parce que j'étais dans le studio d'à côté avec un autre artiste. Et puis ce jour-là, Claude Berry enregistrait toutes les prises voix au studio Ferber, qui figure d'ailleurs dans le film Je vous aime.
Absolument.
Gainsbourg et Deneuve en duo, je crois qu'il y a eu 8 ou 9 prises pour arriver finalement à la définitive du film. Et cette chanson, m'avait dit Serge, a été écrite en, je crois, une demi-heure. C'est-à-dire qu'il s'est mis au piano, inspiré par des grands musiciens russes. Et puis après, il est parti de sa gitane qui fumait dans le cendrier. Et puis il a fait sa chanson et Deneuve a été immédiatement séduite. Et quand il allait en télévision avec Catherine Deneuve pour interpréter la chanson, évidemment, les rumeurs couraient qu'il aurait peut-être eu une liaison avec Catherine Deneuve. Eh bien non.
Il était très insistant, très cajoleur.
Eh bien non, puisque Catherine Deneuve s'en est toujours expliqué. Et elle a toujours dit, mais non,
pas du tout.
C'est un très bon copain, toujours expliqué, et jamais un amant.
Voilà. Je vous recommande un CD formidable, ce sont les actrices qui chantent Gainsbourg, où l'on retrouve Deneuve évidemment, Bardot, on va y venir, mais aussi Jeanne Moreau, écoutez.
Oh, 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 quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, 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 comment faire. M'en défaire si je peux.
Ou Mireille d'Arc aussi sur cet album.
Dans le compartiment 23 sur le Paris truc moche. Si une fille vous accroche, c'est moi.
J'ai toujours même baguillon avec un édredon. Je dis ça pour qu'on se rapproche de moi.
Voilà, la rime et le jeu de mots, toujours chez Gainsbourg.
Ouais, c'est une période où toutes les actrices voulaient chanter. Elles voyaient le succès des chanteuses, les jeunes chanteuses yéyé de l'époque. Elles voulaient en faire partie. Elles voyaient bien que ça fonctionnait, que le public aimait ça. Donc elles se sont toutes essayées, plus ou moins, encouragées par des grands producteurs comme Jacques Canetti à l'époque, par des gens comme ça qui les ont toujours accompagnées, même Gainsbourg, qui finalement proposait leurs chansons.
Bon, une voix, une gouaille, il faut dire, hein, pour celles qu'on vient d'entendre. Évidemment, quand on parle d'actrice, il y a la plus belle.
Brigitte Bardot,
qui l'inspirera vraiment dans les années 60.
Oui. Absolument, il la rencontrera en 1963 une première fois, mais c'est surtout à partir de 1967, pour un show télévisé qu'il préparait à ce moment-là, que Gainsbourg lui proposera, ira voir Brigitte Bardot à son domicile parisien de l'avenue Paul Doumer à Paris. Il lui proposera deux chansons, dont Harley Davidson.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.
Associé à ces chansons, il y a les clips, évidemment on la voit sur sa Harley.
C'est exactement ça. On est en octobre 1967. Et Bardot lui propose cette chanson. Il a été inspiré en allant retrouver d'ailleurs tout simplement Bardot chez elle. Il est dans un taxi à l'arrière et il voit une Harley Davidson se stationner au niveau de son taxi. Et il voit une jeune fille qui pilotait cette Harley Davidson. Et il fera référence, il mélangera justement le célèbre fabricant Harley Davidson, marque créée en 1903, on le sait bien, et tout un fantasme sexuel lié à la moto. Et ça marchera très très bien. Bardot tombera sur le charme évidemment de Gainsbourg lorsqu'il se mettra au piano pour lui faire écouter sa chanson. Et puis à plus tard, bien sûr, quatre ou cinq mois d'amour fou.
Oui.
Et puis après, une rupture qui donneront naissance encore à d'incroyables chansons de la part de Gainsbourg, dont Initial Bébé.
Bien sûr. Et puis, plus près de nous, Isabelle Adjani, un côté un peu fragile comme Jen, finalement. Hein, une actrice qui est en poupe à l'époque, il la voulait aussi.
Noyée au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, m'enlacer, je t'embrassais. Jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour.
Vous aviez raconté que cette chanson-là, c'est Jen qui la voulait.
Alors elle la voulait parce qu'un jour elle l'entend, elle rejoint, ils sont séparés avec Serge Gainsbourg en 1983, ils sont séparés, elle arrive chez Serge, et puis il joue ça au piano, il lui fait écouter un peu ses chansons, mais c'était pas pour elle, elle dit ah bon c'est pas pour moi, non c'est pour Isabelle Adjani. Il lui fera en revanche une très très jolie chanson, Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, en contrepartie, donc elle n'y a pas perdu au change on va dire. Mais il faut expliquer que Gainsbourg, on le sait pas vraiment, il avait croisé Adjani pour la première fois en 1974 sur un show de Marie-Thi Gilbert Carpentier, un top à Sacha Distel, et ce jour-là elle avait déjà interprété une chanson de Gainsbourg, Rockin' Chair. Et personne, on oublie de le rappeler, c'est pas la première fois qu'elle chantait du Gainsbourg.
Elle a déjà entendu son timbre de voix.
Elle chante très très bien et elle commençait sa carrière avec la fameuse gifle de Claude Pinoteau à ce moment-là, Adjani.
Merci pour cet homme qui faisait chanter les actrices Gainsbourg à l'occasion de la disparition d'Anna Karina. Merci Fabien Lecoeuvre, on se retrouve dans un instant pour la suite du Grand Journal.
Europe 1, le Grand Journal du soir.
Wendy Bouchard.
Merci d'être à l'écoute de votre grand journal sur Europe 1. On retrouve pour vous informer Sophie Tussaud.
Bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Il est 19h.
Aujourd'hui, rien ne change. Alors oui, on s'attend mardi à avoir une journée où la mobilisation sera au moins égale à celle du 5 décembre.
Les syndicats ne changent pas de position pour que cesse la grève dans les transports. Ils réclament purement et simplement le retrait de projet de la réforme des retraites.
Et pour expliquer le texte, les députés La République En Marche se rendent sur les marchés. Ils vont à la rencontre des Français. Reportage à suivre.
La COP25 sur le climat s'achève sur un échec à Madrid. Pour Greenpeace, Paris porte sa part de responsabilité.
Malheureusement, la France ne tient pas son rôle dans ces négociations. Quand les négociations devenaient tendues sur des points clés, il n'y avait plus de présence ministérielle.
Les ostréiculteurs de Bretagne, victimes de vols d'huîtres en série, à l'approche des fêtes, ils se protègent au maximum pour éviter de perdre leur travail.
La gendarmerie qui renforce les patrouilles, la brigade nautique de gendarmerie, la vidéosurveillance, on essaie de se protéger au maximum.
On est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et aujourd'hui encore, Philippe Martinez n'y va pas par quatre chemins. Le secrétaire général de la CGT affirme que si le projet de réforme des retraites est retiré, il y aura des trains à Noël. Sinon, les grévistes décideront jeudi ou vendredi de la suite du mouvement.
Oui, en attendant, mardi sera une nouvelle journée de mobilisation nationale contre le projet. La grève ne faiblit pas. Demain sera une 12e journée de galère dans les transports, Justin Morin.
Et oui, effectivement, c'est un peu, on prend les mêmes et on recommence. D'abord, concernant les prévisions de la SNCF, le trafic reste très perturbé. Un TGV sur 3, un Transilien sur 4 et 4 TER sur 10 en moyenne. En ce qui concerne les déplacements en Ile-de-France, idem, à Paris, 8 lignes sur 14 resteront fermées toute la journée. Seules la 1 et la 14 automatisées fonctionneront normalement. Quant au bus, 50% du service sera assuré. Et enfin, pour les principaux RER, ce sera 1 sur 2 sur la A et 1 sur 3 sur la B. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'annoncent les syndicats pour la journée de mardi. Éric Meyer, secrétaire général du syndicat Sudrail.
Rien ne change. On a la question de l'axe pivot là, qui est mise en avant, qui pour nous ressemble plus à une diversion, hein, parce que le fond de la réforme reste le même. Alors oui, on s'attend mardi à avoir une journée où la mobilisation sera au moins égale à celle du 5 décembre.
Et ce refrain, on le retrouve aussi du côté des syndicats de l'éducation nationale. Le 5 décembre, 50% des enseignants du primaire étaient en grève, 42% dans le secondaire. Les syndicats espèrent faire autant mardi. Enfin demain, ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez bloqué sur les routes près des grandes villes. Les transporteurs routiers sont aussi en grève à l'appel de plusieurs syndicats. Alors non pas pour les retraites, mais pour principalement des revalorisations salariales. Ils comptent organiser des barrages filtrants. Alors, pas forcément sur les grands axes, mais il y a quand même un risque de désagrément.
Merci Justin Morin. Marine Le Pen était l'invitée ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Si la présidente du Rassemblement National dénonce le blocage des transports, elle critique le projet de réforme et estime qu'il doit être retiré.
Rien n'est à retenir dans ce système de retraite proposé par le gouvernement. J'ai envie de dire, tout est à jeter. Elle effondre totalement notre système de retraite. Moi, je pense qu'il faut retirer cette réforme. Et c'est la raison pour laquelle je dis à votre antenne ce matin que l'âge pivot est une mauvaise manière qui est faite aux Français. Mais ça n'est pas le plus grave dans ce système de retraite proposé. Le plus grave, c'est le calcul de la retraite sur la carrière entière, c'est la valeur du point, c'est le hold-up qui est fait sur les réserves des systèmes de retraite. 160 milliards vont être volés purement et simplement par le gouvernement. Ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement graves. Bien plus graves pour l'avenir des Français que l'âge pivot.
Marine Le Pen, invitée sur Europe 1. Et pour vanter les mérites de cette réforme, le gouvernement mise sur la pédagogie.
En envoyant les députés La République En Marche qui arpentent les marchés, qui vont à la rencontre des Français, comme Marie Guévenoux, elle est élue dans l'Essonne et Claudia Bertram l'a suivie pour Europe 1 hier sur le marché de Noël d'Étiole.
Courage, courage. Merci beaucoup.
Entre deux stands du marché de Noël, cette retraitée apporte son soutien à la députée et ne cache pas son inquiétude.
Notre gouvernement, est-ce qu'il va tenir le choc avec toutes ces grèves ?
Le gouvernement, en tout cas, est déterminé. Et après, il est ouvert à la négociation sur certains points.
Ils sont plusieurs à saluer la réforme, mais Marie Guévenoux assure le service après-vente auprès des plus sceptiques.
Levé 4h du matin, arrive au boulot 6h et la galère pour rentrer.
C'est pour ça que c'est important que ça s'arrête.
Maintenant, je comprends que les gens seront en colère.
La députée écoute les arguments, reprend point par point la réforme, mais le ton monte lorsqu'elle croise un couple d'agents de la RATP.
Moi, je suis en grève.
Est-ce que vous êtes opposé à un régime universel ?
Oui, oui. On défend nos intérêts, mais on défend l'intérêt de tous les Français également.
Ça, pour le coup, non. Vous défendez l'intérêt de votre régime. Non, non.
Nous, on fait grève pour tous ceux qui, finalement, ne peuvent malheureusement pas faire grève. On ne peut pas discuter avec vous.
La discussion tourne court, mais pour l'élu, le dialogue sur le terrain est essentiel.
On ne gouverne pas contre les gens. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'écouter ce que disent les gens, de comprendre ce qu'ils veulent, les points avec lesquels on est parfois pas en accord. Et c'est tout le principe d'une négociation et de ce qu'est en train de faire le gouvernement.
La députée finit son tour avant d'enchaîner avec deux autres marchés. Marché de Noël.
Claudia Bertram à Étiole pour Europe 1.
On fait une petite pause très courte et on vous parle de l'échec de la COP25 à Madrid.
18h-20h, Wendy Bouchard.
Il est 19h06, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Et après deux semaines de négociations à Madrid et un retard de 42 heures sur la fin de séance, la COP25 sur le climat se termine sur un échec.
Oui, c'est l'urgence d'agir pour le climat a été soulignée. C'est un accord à minima qui a été adopté en séance de clôture. Aucun terrain d'entente sur les règles de marché carbone internationaux, le dernier volet de l'accord de Paris. Et Clément Sénéchal est porte-parole à Greenpeace. Il estime que la France a sa part de responsabilité dans cet échec.
Malheureusement, la France ne tient pas son rôle dans ces négociations. Elle est pourtant la garante de l'accord de Paris. Hein. C'est l'accord de Paris, pas l'accord de Melbourne ou l'accord de Nairobi. Et aujourd'hui, la France ne tient pas son rôle parce qu'elle n'a pas été, d'une part, présente à la COP à un niveau suffisant. Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement à Madrid. Et en deuxième semaine, quand les négociations devenaient tendues sur des points clés, il n'y avait plus de présence ministérielle, malheureusement, dans les couloirs de la COP pour réussir à attirer les négociations vers le haut. La France manque de crédibilité puisque, au niveau national, elle ne parvient pas, toujours pas, à respecter ses propres engagements climatiques et à se doter d'objectifs qui permettent de contenir la hausse des températures à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle.
Clément Sénéchal de Greenpeace au micro européen de notre envoyé spécial à Madrid, Virginie Salmen. Le bilan des intempéries dans le sud-ouest s'alourdit à 3 morts. Le corps de l'homme de 40 ans porté disparu depuis vendredi soir dans les Landes a été retrouvé dans sa voiture dans un secteur inondé. 7 départements du sud-ouest sont toujours en vigilance orange aux inondations. Et en raison des vents violents, 7000 foyers sont toujours privés d'électricité. Ce soir, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, les agents d'Enedis sont toujours à pied d'œuvre pour rétablir le courant.
Dans 10 jours, c'est Noël et à l'approche des fêtes, les ostréiculteurs ont une hantise, le vol de leurs huîtres.
Oui, c'est un trésor qui vaut cher parce qu'on ne parle pas de petits larcins. Cette semaine, 4 tonnes et demie de coquillages ont été dérobés chez un ostréiculteur du Morbihan. Et pour éviter de perdre le fruit de leur labeur, ils redoublent de vigilance. Renan Coquelin s'est rendu dans les Côtes d'Armor où se trouve l'un des plus gros bassins de production d'huîtres de Bretagne.
Les semaines qui précèdent Noël, c'est toujours une période stressante pour Henri, ostréiculteur à Paimpol.
C'est notre chiffre d'affaires de l'année en fait. On joue tout là-dessus, savoir si on va bien vendre, si on va tout vendre. Le vol, c'est un stress supplémentaire. Si on est stressé pendant 15 jours, vivement le 2 janvier.
15 jours où les ostréiculteurs sont sur le qui-vive pour ne pas se faire voler leurs marchandises. Les tonnes d'huîtres récoltées sont stockées dans des dépôts surveillés de très près.
On essaie de se protéger au maximum. La gendarmerie qui renforce les patrouilles, la brigade nautique de gendarmerie, la même chose. Nous-mêmes, personnellement, on se protège à travers des systèmes, par exemple la vidéosurveillance.
Certains vont même jusqu'à placer des mouchards dans leurs poches d'huîtres. Ils sont alertés si elles sont déplacées.
Il y a des pêcheurs qui l'ont pratiqué sur des casiers, des pêcheurs qui étaient en permanence volés, et grâce à cela, ils ont pu arrêter les voleurs. Ils ont suivi le casier qui se déplaçait dans les baies. Là. Les gendarmes sont intervenus, ils ont cueilli des voleurs.
Une sécurité efficace mais trop coûteuse, selon Henri. L'ostréiculteur touche du bois. En 40 ans de métier, il n'a jamais été volé. Paimpol, Renan Coquelin, Europe 1.
À tout à l'heure, 19h30, pour les infos, Sophie Tussaud. On fait un petit point météo avec vous, Laurent Cabrol, et les températures qui remontent un chouïa.
Ah, c'est une météo très douce qui s'annonce pour cette semaine, malheureusement aussi très pluvieuse, ou en tout cas souvent pluvieuse. Alors certes, demain, les pluies ne vont concerner que les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et elles concerneront aussi le Languedoc, le Roussillon, les Cévennes. Ce sont des vents marins qui vont arriver, ce sont des pluies marines, et donc des pluies assez fortes au fil des heures, avec des vents de 100 km/h. Bon, c'est pas encore terrible. Mardi, les pluies vont se renforcer dans le sud. Mmh. Mercredi, ce sera une journée, relativement calme, avec des pluies seulement sur le flanc est. Mais jeudi, vendredi, samedi et dimanche seront des journées pluvieuses, et ce sur une grande partie de la France, avec comme on le dit depuis maintenant plusieurs jours, les vents qui se renforceront. Cela ressemble un petit peu à ce que nous avons vécu dans une moindre intensité, avec des vents de sud et surtout avec des températures très douces.
Merci Laurent Cabrol. 19h11, Wendy Bouchard, c'est l'heure du JDS. On la présente en stéréo cette chronique. Christophe Lamar, bonsoir. 18e journée de Ligue 1 avec la fin du match entre Lyon et Rennes.
On repart du côté du Parc OL où l'on retrouve notre correspondant Maxime Cheuch et on ne peut pas dire que les choses s'arrangent du côté de Lyon qui s'incline donc ce soir face à Rennes. 1-0 Maxime.
Rennes fait la très bonne opération de cette 18e journée de Ligue 1 après ce succès. 1-0 ici à Lyon, 4e victoire de suite en championnat pour les Bretons qui ont marqué à la 89e minute après un exploit personnel de leur pépite Eduardo Camavinga, 17 ans, plein de sang-froid pour tromper Anthony Lopez après un slalom à l'entrée de la surface lyonnaise. Mais ce résultat n'est pas volé compte tenu de la physionomie du match où ce sont les Rennais qui s'étaient procuré les meilleures occasions. Côté lyonnais en revanche, nouvelle performance profondément inquiétante pour les hommes de Rudy Garcia qui aurait pu encaisser au moins 2 buts en plus sans un grand Anthony Lopez dans les cages. Toujours pas de victoire non plus pour Lyon cette saison face à une équipe du top 10 en Ligue 1.
Maxime Cheuch en direct du Parc OL cet après-midi. Bordeaux s'est incliné 1-0 à domicile face à Strasbourg. Les Bordelais qui restent malgré tout à 5 points du podium. En revanche, la bonne opération est strasbourgeoise puisque les Alsaciens prennent leur distance avec la zone dangereuse. Ce soir, le dernier match de cette 18e journée opposera Saint-Etienne au PSG. Coup d'envoi prévu aux alentours de 21h. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
La Champions Cup de rugby maintenant et Clermont qui garde, Christophe, toutes ses chances de vivre les quarts de finale.
Les Clermontois s'imposent 52-26 face à Bath, bonus offensif en prime. Les Auvergnats conservent toutes leurs chances de terminer premier de leur groupe, place occupée pour l'instant par l'Ulster. Une très bonne journée effectivement pour Franck Azéma, l'entraîneur de l'ASM.
C'est important de prendre les 4 points, de gagner. On en prend 5, donc c'est une bonne chose. On a notre destin en main, comme on disait dans la semaine. Et c'est bon de prendre 10 points sur ce back-to-back avec Bath. On reste au contact de Ulster. Dans un mois, on va recevoir Ulster. Et donc, voilà, c'est ce qu'on recherchait. On est dans les clous pour aller chercher une qualification, c'est ce qu'on veut. On avait fait un faux pas déjà à Ulster, donc on n'avait pas droit à un deuxième faux pas. Donc, c'est resté maître de notre destin et ça passait par cette victoire.
Franck Azéma, l'entraîneur de Clermont, au micro de Damien Tardieu.
Le reste de l'actu sportive avec le ski à la une.
Oui, et avec un sourire, plusieurs sourires même, celui d'Alexis Peintureau qui remporte le slalom de Val d'Isère et prend la tête du classement général de la Coupe du Monde. En ski boss, Perrine Lafont s'impose à Taïwo en Chine. Troisième victoire cette saison pour la championne olympique. Côté garçon, Benjamin Cavin a terminé deuxième derrière le Canadien Michael Kingsbury. Le basket, Monaco bat Boulogne Levallois 98-67 et occupe désormais seule la deuxième place d'un championnat toujours dominé par Villeurbanne. La Coupe du Monde de biathlon, la Norvège de Johannes Bø remporte le relais masculin d'Oschfilsen en Autriche. L'Allemagne termine deuxième. La France, sans Martin Fourcade ni Simon Détieux, complète le podium. Enfin, le championnat du monde féminin de handball, les Néerlandaises décrochent le premier titre de leur histoire. Elles ont battu l'Espagne en finale 30-29. La Russie prend la troisième place.
Monsieur Christophe Lamar sur Europe 1, merci.
À suivre, le nouveau cri d'urgence des médecins, Wendy Bouchard.
De grands noms qui se disent prêts à la démission. Vous avez peut-être lu cette tribune dans le journal du dimanche. Si rien ne change drastiquement pour l'hôpital, ils interpellent une fois de plus le gouvernement. À tout de suite.
Europe 1.
Il est 19h16, le grand journal du soir, la suite Wendy Bouchard avec cette tribune inquiétante publiée dans le journal du dimanche par 660 médecins hospitaliers.
Bonsoir Stéphane Daugé.
Bonsoir madame.
Vous êtes chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, membre du collectif Interhôpital. Et le 30 novembre, Stéphane Daugé, vous étiez ici avec nous dans ce studio sur Europe 1. Il se trouve que touché par vos mots, par votre discours, par l'urgence que vous soulignez, la ministre de la Santé vous proposait une réunion le lendemain au ministère. Vous lui parlez, vous dialoguez, mais manifestement rien ne se passe d'assez tangible et de rassurant pour vous, pour que vous lanciez et que vous signiez cette tribune aujourd'hui.
Effectivement, la ministre nous a convoqué les réanimateurs pédiatriques d'Île-de-France pour, je le crains, focaliser les problèmes sur l'assistance publique, focaliser les problèmes sur un hôpital de l'assistance publique, l'hôpital Necker, qui disait depuis très longtemps que des lits de réanimation étaient fermés, alors qu'on voit que ce n'est pas un problème de l'assistance publique uniquement. Mmh. Quelques jours après, un collègue du 93 a eu un cri d'alarme important expliquant que la situation dans son hôpital, qui n'est pas de l'assistance publique, était aussi très très tendue. Et pas plus tard que cet après-midi, on avait encore un exemple dans d'autres hôpitaux de l'assistance publique où les collègues avaient prévenu et on a été en difficulté puisque 3 nouveaux nourrissons ce week-end, en plus des 22 précédents, ont été transférés à 200 km de Paris, faute de place en Île-de-France.
Ça continue, vous écrivez avec les signataires, le vrai ministère de la Santé est aujourd'hui à Bercy et nous devons nous résoudre aujourd'hui à un mouvement de désobéissance inédit. Désobéissance, ça passerait par quoi, Stéphane Daugé ?
Bien, nous avions commencé par la rétention du codage, qui était un acte politique au sens vide la cité du terme, pas du tout partisan, j'avais eu l'occasion de vous le dire.
Qu'est-ce que ça voulait dire, la grève du codage ? Vous pouvez nous
ça
rappeler ?
Ça voulait dire de ne pas transmettre à l'assurance maladie les coûts de chaque hospitalisation. Donc en fait de continuer les soins, mais sans rentrer dans la démarche de finance au coup par coup hein, qui était ce système-là.
Ça veut dire une perte d'argent pour l'hôpital, anecdotique.
Potentiellement, c'est sans doute, on a fait une rétention du codage, c'est-à-dire qu'on a conservé les codages mais qu'on ne les a pas transmis. D'accord. Là aussi, on a fait preuve de responsabilité, tout autant qu'on est. C'est en train de diffuser sur tout le territoire. Là aussi, ça démontre bien que ce n'est pas un problème de l'assistance publique de Paris, puisque d'autres hôpitaux dans toute la France nous rejoignent. Et ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que depuis quelques jours, effectivement, nous avons décidé, puisque ça date d'il y a 3 semaines environ, d'accélérer le mouvement et de montrer qu'on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions.
En vous disant prêt à la démission, l'heure est grave, Stéphane Daugé, ça veut dire que vous pourriez, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, vous démettre ?
Alors, de mes fonctions administratives et de ma fonction de chef de service, oui, je m'y suis engagé, comme maintenant, depuis que vous avez vu la tribune, 700 collègues dans toute la France, de tous les hôpitaux universitaires, non universitaires, dans les DOM-TOM, de toutes les spécialités. On a focalisé sur la pédiatrie, parce que la pédiatrie est en tension en ce moment, mais de toutes les spécialités. Et oui, nous irons au bout de notre démarche. Si nous avons signé cette pétition et cet engagement, nous tiendrons nos responsabilités.
Ça veut dire sacrifier les malades ?
Pas du tout. Je suis professeur d'université et médecin et réanimateur pédiatre. Je serai en salle la semaine prochaine comme mes collègues, comme tous mes collègues dans toute la France, et je continuerai les soins, je continuerai à m'occuper de mes étudiants, je continuerai l'enseignement. Mais par contre, je ne participerai plus à des réunions avec l'administration qui ne nous permettent plus d'avancer.
Parce que ces réunions ne servent à rien. Manifestement, il y a un dialogue qui s'engage, mais ce n'est pas toujours pour vous le bon interlocuteur. La ministre de la Santé, votre ministre de tutelle, n'est plus l'interlocuteur.
Alors, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Depuis que nous avons alerté, et avant nous, les urgentistes, avant nous, les psychiatres, avant nous, les collègues gériatres, c'est-à-dire que ça date d'il y a déjà longtemps, nous n'avons jamais été reçus. J'ai été reçu pour représenter mes collègues qui étaient occupés, convoqués 24 heures à l'avance pour des problèmes d'extrême urgence en réanimation pédiatrique en Île-de-France. Mais le problème est bien au-delà de tout ça. Les gens qui sont engagés ne sont pas que des pédiatres et que des réanimateurs pédiatriques. Donc, le problème est bien plus important que ça. Il faut vraiment qu'on soit écouter, qu'on soit reçu et qu'on puisse entrer dans des débats pour avancer.
Vous demandez même un Grenelle de la santé pour l'hôpital. Elle répond juste à votre tribune ce matin sur BFM, Agnès Buzyn, en disant « Je suis la ministre qui depuis 10 ans a réaugmenté le budget des hôpitaux. Ils étaient en baisse depuis 10 ans. » On est dans une logique comptable qui vous dépasse, là, Stéphane Daugé ? Même si c'est de l'argent que vous demandez, entre autres.
Bien sûr, mais non, ça ne nous dépasse pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à la hauteur de tout ce que nous avions réclamé. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Des économistes de la santé l'ont dit. Prendre une partie de la dette, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les hôpitaux, bien évidemment. Mm-hmm. Mais si, avec ce système de financement, dès les premiers mois suivants, on se remet à être endetté, on arrivera exactement au même résultat. Il y a besoin d'une situation... C'est une situation d'extrême urgence. Il faut réagir tout de suite et il faut avoir des moyens à la hauteur. Ça ne suffit pas.
Avec un plan financé, au moins 1 milliard 300 000 euros contre les 300 millions qu'on vous annonce.
C'est exactement la demande qu'on a formulée, mais ça sera un point de départ. Il faut engager ça tout de suite et très rapidement, puis effectivement commencer à réfléchir d'emblée. Nous sommes prêts. Nous n'avons jamais déserté les soins et nos malades. Mmh. Nous voulons travailler, nous voulons revenir exactement dans une situation où nous collaborons tous les jours avec l'administration pour avancer. Pour ça, il faut faire ce premier pas, mettre cet argent sur la table pour financer les hôpitaux et puis aller de l'avant pour construire l'hôpital public de demain. Nous sommes là pour ça.
On comprend bien votre discours, Stéphane Daugé. L'opportunité de la tribune de ce matin, quelle est-elle ? On est dans une contestation sociale aujourd'hui sur les retraites. Et j'imagine qu'aujourd'hui, ce qui vous préoccupe, ce n'est pas forcément la retraite, c'est juste la manière dont vous pouvez exercer ou pas exercer vos métiers si essentiels. Vous ne voulez pas être les oubliés de ce mouvement ?
Alors encore une fois, très clairement, nous ne battons pas pour nous. Vous vous souvenez, les 4 revendications importantes sont l'augmentation de l'ONDAM, c'est ce dont on vient de parler. Oui. Le deuxième, c'est la revalorisation des petits salaires de la fonction publique hospitalière, soignants et non soignants. Là aussi, il y a aussi des gens qui font vivre l'hôpital, typiquement des gens qui travaillent à l'administration dont on a besoin et qui ont des salaires qui n'ont pas évolué depuis très longtemps. Il faut réouvrir des lits tout de suite. Nous n'avons rien lâché là-dessus. Typiquement, ça répondrait aux besoins
et
de la réanimation pédiatrique.
Ça, c'est facile. C'est pas comme former des médecins 10 ans.
Alors, dans des spécialités très compliquées ou très spécialisées comme la mienne, c'est pas évident. On est prêt à travailler. Je lisais encore le message d'une responsable de DMU, donc un pôle de l'assistance publique, qui était tout à fait ouverte à travailler pour ouvrir des lits en urgence pour régler le problème de la bronchiolite. La grippe est en train d'arriver. Nous allons vivre l'épidémie de gastro-entérite dont certains patients viennent en réanimation quand ils sont très sévères. Donc il faut ouvrir des lits tout de suite et réfléchir après, dans les mois qui viennent, à ne pas anticiper de nouveau des difficultés. Ce qu'on nous propose actuellement, oui, c'est à chaque fois des solutions qu'on nomme de dégradées. Pour la pédiatrie, les équipes seraient prêtes à préparer pour l'année prochaine des plans dégradés où on hospitaliserait des enfants en réanimation adulte. Ce n'est pas entendable pour un pédiatre. On est prêt à faire beaucoup d'efforts, à travailler en collaboration, mais il faut vraiment qu'on nous tende la main.
Ça fait 9 mois que vous dites que l'on va à la catastrophe, 9 mois que vous montrez justement cette réalité, 9 mois que vous n'êtes pas écouté à vos justes valeurs. Est-ce que finalement vous souhaiteriez être reçu ou par les supérieurs, ou par le Premier ministre, ou par Emmanuel Macron, avant de lancer et afin de lancer ensemble ce grand Grenelle de l'hôpital ?
Je ne rentre pas dans ce débat, je ne sais pas quel est le meilleur interlocuteur. On rentre là dans des débats un peu plus stratégiques. Oui. On veut être entendu. Moi, je suis sur le terrain, je m'occupe de mes malades et j'essaie de m'occuper de mon équipe. Vous voyez, pas plus tard que vendredi soir, il manquait deux infirmières dans le service. Une infirmière qui a 25 ans d'expérience a accepté de refuser son week-end et de laisser tomber son week-end pour venir laisser les deux lits ouverts qui auraient bien fait défaut. Et j'apprends là qu'il y a encore trois enfants qui ont été transférés. Donc, on est sur le terrain.
Et ce système-là n'est pas viable.
Ce système n'est pas viable. On est sur le terrain. Je ne sais pas qui doit prendre les décisions. Je ne rentre pas dans ce jeu-là, mais je voudrais qu'enfin les soignants, les gens du terrain soient entendus.
Merci. On espère que vos propos de nouveau seront entendus et pour des actes à la hauteur de vos espérances. Stéphane Daugé, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. Et si vous voulez retrouver cette tribune publiée aujourd'hui dans le JDD, maintenant 700 membres signataires prêts à démissionner pour le bien de l'hôpital de demain. Merci Monsieur Daugé. Merci beaucoup.
Merci Madame.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard. C'est l'heure à présent de l'actu des animaux. Voici Planète Sauvage sur Europe 1.
Avec un chiffre à la une, 1174 animaux qui ont trouvé une famille au Noël de la SPA les 7 et 8 décembre dans les 62 refuges et maisons de l'association. Ce plan de protection des cétacés maintenant, un plan adopté par le gouvernement. Parmi les mesures votées, l'installation de répulsifs acoustiques sur les filets de pêche pour éviter les captures accidentelles de dauphins. Et puis une mauvaise nouvelle en revanche pour l'oie cendrée, la prolongation de la chasse a été autorisée en France malgré la saisine pour la 11e fois de la Ligue de protection des oiseaux.
À la une encore, cette nouvelle enquête choc sur la production de foie gras.
Enquête de l'association L214 à 10 jours de Noël. Enquête menée au domaine de la Pérouse en Dordogne. Bonsoir Brigitte Gauthier.
Bonsoir.
Brigitte, vous êtes porte-parole et directrice de cette association. Pourquoi avoir pris pour cible d'abord cet établissement réputé, médaille d'or au concours général agricole cette année ?
Effectivement, c'est intéressant d'être sur une exploitation très représentative, très primée de la production de foie gras et de montrer combien c'est pénible, pour dire le moins, pour les canards, cette production, avec le gavage qu'on connaît bien maintenant, qui provoque la stéatose hépatique avec le foie qui prend 10 fois sa taille normale, et puis ces cages qui se resserrent pour pouvoir les gaver, pour pouvoir les empêcher de s'échapper. Et puis, la spécificité ici, c'est que donc on est dans un centre de formation d'expérimentation. Et on voit que même ici, la réglementation n'est pas respectée. Vous avez un tri des canetons qui se fait dès la naissance des petits canards, où on trie les mâles et les femelles. Et les femelles sont éliminées à la naissance parce que pas intéressantes dans la production de foie gras. Et ici, l'élimination ne se fait pas par broyage, ce qui serait déjà terrible, mais se fait par abandon dans les poubelles. C'est-à-dire qu'elles vont y mourir de faim ou d'écrasement par les autres, ce qui prolonge leur agonie.
Ces images existent au cœur de votre vidéo et c'est absolument terrible. Les responsables de ce domaine se défendent en signalant une mise en scène par quelqu'un qui en veut à la filière foie gras. C'est souvent l'argument qu'on entend. Comment vous répondez, contre-réagissez ?
Oh ben non, la préfecture a réagi, nous on a fait le signalement dès qu'on a eu les images, et ils ont installé en urgence une broyeuse pour qu'il y ait cette mise aux normes, parce que justement il y a eu un signalement qui a été fait, et non pas par les contrôles qui sont faits par les services vétérinaires. Donc là aussi on voit des contrôles défaillants et il faut une fois de plus l'intervention d'ONG pour qu'on puisse espérer que simplement la réglementation soit appliquée, une réglementation qui est évidemment pas suffisante de toute façon pour assurer le bien-être des animaux.
Le foie gras, c'est une spécificité française, une des identités gastronomiques françaises, une filière aussi, 100 000 emplois directs et indirects. Et il y a toujours ce bras de fer évidemment entre la défense animale et la réalité économique. Vous avez demandé cette semaine au ministère de l'Agriculture l'interdiction notamment pour l'exploitation de servir de centre de formation. Vous avez eu une réponse de Didier Guillaume, Brigitte Gauthier ?
Non, comme d'habitude, enfin, les autorités, elles ont du mal à nous répondre parce que on leur met un petit peu le nez sur des scandales. Effectivement, le foie gras, c'est une spécificité française. Il est interdit, grosso modo, de gaver des animaux partout dans le monde. Oui. On a du mal à avancer en France sur ces questions-là, puisque notre ministre de l'Agriculture est aussi ministre, soi-disant, du bien-être animal. Mais en fait, il est plutôt très fortement influencé par les lobbies de l'élevage intensif qui veulent garder le statu quo dans les filières plutôt que d'avancer pour rendre moins pénible la vie des animaux dans les élevages et moins terrible leur sort dans les abattoirs.
Merci pour vos mots, Brigitte Gauthier, vous qui présidez l'association L214 avec donc cette nouvelle enquête choc pour la production de foie gras. Merci Brigitte.
À suivre. Ah pardon, le grand débrief de l'actu sur Europe 1.
Les grands sujets du moment et du jour et de la semaine, analysés par nos débatteurs Corinne Lepage et Benjamin Morel. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et d'abord le rappel de l'actualité, Sophie Tussaud.
L'ultimatum de la CGT au gouvernement ce soir. Si le projet de réforme des retraites est retiré, tout se passera bien à Noël et il y aura des trains. Déclaration de Philippe Martinez qui précise que les grévistes décideront de la suite du mouvement jeudi ou vendredi prochain. Réponse de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. La République ne peut pas subir de chantage. Demain, 12e journée de grève dans les transports et à nouveau beaucoup de perturbations. Avec un TGV sur 3, un Transilien sur 4, 4 TER sur 10. À Paris, 8 lignes de métro sur 16 seront fermées. Le trafic sera partiel sur les autres. Il y aura également un RER A sur 2 et un train sur 3 sur la ligne B. Le bilan des intempéries dans le sud-ouest s'alourdit. Il fait état à présent de 3 morts. L'homme porté disparu depuis vendredi soir dans les Landes a été retrouvé dans sa voiture. 4 départements du sud-ouest, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Gers et les Landes restent en alerte orange aux inondations. Le chef de l'ONU se dit déçu par la COP25 et regrette une occasion ratée. Un accord à minima a été trouvé en fin de conférence à Madrid. Le besoin à agir pour le climat a été souligné. En revanche, pas d'entente sur les règles des marchés carbone internationaux, le dernier volet des accords de Paris.
Merci Sophie.
Europe 1. 19h32, place au grand débrief de l'actu, Wendy.
Oui, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, nos invités échangent sur les sujets forts de ces dernières heures pour parler des retraites et du bras de fer gouvernement-syndicat, pour revenir sur l'accord à minima, on vient de le dire, à la COP25 ou sur les 20 ans de l'ERICA. J'accueille deux invités ce soir, l'avocate Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, présidente du club de réflexion CAP21. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Et Benjamin Morel, maître de conférence à l'université Panthéon Assas et docteur en sciences politiques. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Morel. Merci d'être avec nous dans ce grand journal sur Europe 1. Vous avez l'un et l'autre lu probablement les deux interviews du jour, l'une dans Le Parisien, Édouard Philippe face au lecteur, l'autre dans le JDD, Laurent Berger qui dit ne pas vouloir de blocage à Noël, et entre les deux, la détermination d'un certain nombre de syndicats plus inflexibles comme Julien Trocaz de Sudrail. Il était hier soir sur Europe 1. Écoutez.
Il y a un bras de fer. Un bras de fer. Aujourd'hui, le rapport de force y est, hein, le gouvernement y vacille. Évidemment, on va rien lâcher, mais on va rien lâcher parce qu'on est déterminé, mais parce que aussi, aujourd'hui, le rapport de force il est de notre côté.
Comment vivez-vous cette séquence, Corinne Lepage? Est-ce que vous craignez surtout que le match ne dure plus longtemps que prévu et qu'annoncé?
Je le crains parce que je ne vois pas que quelqu'un veuille céder. Et il va bien falloir que quelqu'un lâche quelque chose. Alors, ce n'est pas impossible que le gouvernement lâche sur l'âge pivot. Mmh. D'abord, c'est une demande de la CFDT. Le gouvernement a besoin de la CFDT. Sauf que, un, ça pose un problème d'équilibre budgétaire. Et deux, je ne suis pas sûre que ça suffise au stade où on en est aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai l'impression de revivre d'une certaine manière 95, où Alain Juppé avait lâché sur les régimes spéciaux.
Vous étiez au ministère à ce moment-là.
Oui, j'étais au gouvernement à ce moment-là. Mmh. Il avait lâché sur les régimes spéciaux. Il y avait eu une grande manifestation. Et Jacques Chirac, 3 jours plus tard, avait signé la fin de la récréation, mais les ordonnances de sécurité sociale étaient quand même sorties en 96,
oui.
Mais après. Voilà, et ben je ne serais pas très étonnée qu'on soit dans un cas de figure un peu comme celui-là, mais peut-être mon analyse est-elle inexacte.
Mais il y a des mots qui peuvent vous faire réagir aussi avant vous, Benjamin Morel, ce sont ceux du Premier ministre. Tout le monde voit arriver Noël avec incertitude et inquiétude, dit-il. Noël, c'est un moment important, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment. Comment ça se lit, ça, un petit peu? C'est le système de la débrouille, les citoyens se gèrent entre eux?
Écoutez, la vie de nos concitoyens, elle est franchement insupportable. Mmh. J'ai à mon bureau des collaboratrices qui se lèvent à 3h30 ou 4h le matin pour arriver à Paris avant 5h, parce qu'à partir de 5h, il y a des bouchons. C'est pas viable,
et
c'est pas possible.
Et on rend les syndicats responsables de cette situation.
Oui, mais enfin, c'est pas les syndicats qui ont choisi le moment où on fait cette réforme, quand même. Il faut quand même être un peu raisonnable. Et c'est pas les syndicats qui ont décidé qu'on le faisait en sortant des gilets jaunes. Donc, qu'il faille une réforme des retraites, je crois que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Le moment, franchement, il n'est pas très opportun.
Ce qui nous amène à parler de la communication politique, de l'opportunité aussi de cette communication, Benjamin Morel.
Oui, si vous voulez, pour l'instant, on est très clairement dans une bataille de communication qui, en fait, conduit à considérer les deux piliers qui font aujourd'hui la force des syndicats. On a une opinion qui suit et on voit très bien, si on regarde les dernières enquêtes d'opinion, qu'il n'y a pas réellement de fléchissement au soutien de la grève de la part de cette opinion publique, notamment à froid. Les sondages qui était paru juste après le discours du Premier ministre ont pu être modifiés, mais ont pu modifier un petit peu cette opinion.
Oui.
Mais les sondages faits plus à froid montrent que l'opinion aujourd'hui suit les syndicats et qu'elle attribue la responsabilité de cette grève plutôt au gouvernement. Et de l'autre, vous avez...
Sur la séquence que vient de nous décrire Corinne. Oui.
Et de l'autre, vous avez très clairement des syndicats qui disposent d'une capacité de blocage dont ils ont fait montre et d'une capacité de blocage qui ne s'étiole pas avec le temps. Et là, on a en effet un scénario à la 95, c'est-à-dire une capacité de blocage, une opinion qui suit et qui attribue au gouvernement les raisons du blocage. La question, c'est du coup, quel va être le facteur vacances de Noël dans tout ça ? Parce que pour l'instant, cette grève impacte principalement les grandes métropoles. C'est en effet ceux qui vivent dans ces grandes métropoles qui, les premiers, sont contraints de marcher à pied ou de trouver d'autres solutions. Avec les fêtes de Noël, on va avoir un impact beaucoup plus grand. Et là, on a deux joueurs qui font un pari.
Mmh.
Vous avez le gouvernement qui parie que les vacances de Noël vont conduire à un retournement de l'opinion en sa faveur contre les syndicats, et un certain nombre de syndicats qui disent au contraire, ça va continuer à être attribué au gouvernement, et c'est sur ces vacances de Noël qu'on va gagner. Les deux font un pari,
oui.
Les deux font un pari risqué.
Et puis ils ont des cartouches, les syndicats, si j'ose dire, Corinne Lepage, sur le fond, sur la forme, avec l'homme du social, le haut commissaire aux retraites, la crédibilité de Jean-Paul Delevoye, qui peut être aussi un peu discutée aujourd'hui.
Je pense que vous connaissez cet homme. Elle l'est beaucoup. Moi, c'est quelqu'un, je trouvais que c'était un remarquable président du CESE, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je le pense, et un très bon médiateur de la République. Je ne comprends même pas cette histoire-là. Je ne comprends pas. L'histoire de la bonne foi, moi je veux bien, mais quand même, c'est un peu
oublié de déclarer 11 de ses fonctions.
Un peu beaucoup, quoi.
Oui.
Voilà, et surtout, ça tombe excessivement mal, parce que c'est lui qui porte le dossier, et bien entendu, c'est une fragilisation supplémentaire d'un gouvernement qui n'en a franchement pas besoin.
Avec le rôle des syndicats, on en parlait tout à l'heure avec Bernard Vivier, les syndicats comme Femmes Politiques, vous les connaissez aussi, ils ont retrouvé une légitimité, ils ont retrouvé du terrain, on est dans un match qui peut aussi un petit peu dépasser les ressentis des Français, la base entre ces deux hommes qui ont un peu personnalisé ce conflit, Laurent Berger, Philippe Martinez, pour terminer là-dessus.
Si vous voulez, Laurent Berger, il dit un truc simple, il dit vous retirez l'âge pivot.
Mmh.
Bon, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont d'accord pour travailler plus longtemps. Très franchement, je ne sais pas. Il y a en tout cas une majorité qui est contre. J'ai vu les... Ce n'est pas énorme. Enfin, c'est 46% qui sont pour et 54% qui sont contre. Bon, donc là, il y a quelque chose. Et il est clair, s'il n'y a rien là-dessus, ce sera un élément de plus pour l'opinion publique de dire qu'ils n'avaient qu'à suivre au moins Laurent Berger. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà. Je pense que c'est très difficile à jouer. Et puis, on a quand même le sentiment tous d'être tout à fait otage de tout ça.
Oui.
Ce qui n'est pas franchement très agréable.
L'âge pivot qui colle un petit peu à la peau du Premier ministre. C'est lui qui la porte, cette réforme. C'est lui qui l'a annoncée. C'est lui dont Laurent Berger dit qu'il l'a franchi la ligne rouge, au fond, Benjamin Morel.
Mais si vous voulez, cette question d'âge pivot, encore une fois, les enquêtes d'opinion n'ont pas montré de transformation profonde du soutien à la grève après l'annonce de cet âge pivot. Fondamentalement, ce qui pose problème aujourd'hui dans cette réforme, c'est pas tant tel ou tel paramètre qui peuvent être acceptés ou non acceptés. C'est la confiance qu'accordent, ou plutôt que n'accordent pas, les Français dans le gouvernement pour la mener, alors que c'est une réforme complexe et que c'est une réforme qui touche tout à chacun.
Mmh. Et on ne comprend pas qu'il ne soit pas en première ligne sur cette réforme du quinquennat, Emmanuel Macron, lui qui l'a été tout le temps.
Oui, mais si vous voulez,
séquences.
Pour un président de la République, sur une réforme comme ça, il vaut mieux parler quand tout est acté. Pour l'instant, on est dans une période de négociation, donc c'est loin d'être évident. En plus, le cas de Delevoye est probablement très embêtant, parce que c'est justement un élément qui fragilise la confiance dans la réforme. Et le principal partenaire, la CFDT, n'est pas un partenaire fort. Il ne faut pas croire que Laurent Berger a toutes les cartes là-dedans. Il y a trois facteurs qui font penser que la CFDT est plutôt un partenaire faible. D'abord, elle est dépassée par sa base.
Mmh.
On voit que la CFDT cheminot est rentrée dans l'action bien avant que Laurent Berger soit fâché et qu'elle rentre dans la grève, alors même que Laurent Berger dit on manifeste, mais on ne fait pas grève. Ensuite, la CFDT, la dernière fois qu'elle a tendu la main à un gouvernement dans le cadre d'une réforme des retraites, l'a payée très chèrement par la suite, en 2010. Or, on a des élections bientôt. Et enfin, troisième point, on a vu encore une fois que le positionnement de Laurent Berger n'avait pas fait bouger l'opinion. C'est-à-dire que la place de la CFDT aujourd'hui, que ce soit à travers sa branche cheminot qui a une capacité de blocage ou à travers un Laurent Berger qui jusqu'à présent n'a pas réussi à faire bouger d'un côté comme de l'autre l'opinion, eh bien sur ces deux piliers qui tiennent aujourd'hui ce mouvement, le soutien de l'opinion et la capacité de blocage, la CFDT n'est très clairement pas le bon partenaire pour faire bouger l'un des deux. Et ça, pour le gouvernement, c'est un vrai problème.
Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Panthéon Assas, est avec nous, ainsi que l'avocate Corinne Lepage. Je dis avocate, chère madame, parce que l'actualité qui nous réunit maintenant va vous faire réagir. Avant de parler de la COP25, je voudrais qu'on réévoque ensemble les 20 ans de l'Erika. Un drame, le naufrage de ce pétrolier, le 11 décembre 1999, avec à son bord 30 000 tonnes de fioul et pour conséquence l'une des pires marées noires en France. Il se trouve que vous avez été l'avocate des victimes vendéennes de l'Erika. Quelle est l'image pour vous qui restera à jamais gravée dans votre mémoire sur ce drame ?
C'était encore, parce qu'avant il y avait eu la Moco, il y avait le Tanyu, il y avait le Gino, enfin il y a eu le Torrey Canyon, il y en a eu un paquet. Mm-hmm. Hein. Je dirais que pour moi, c'est une victoire judiciaire qui a été très utile. Il y en a qui ne le sont pas, celle-là, elle a été très utile. La preuve, c'est que je touche du bois. En Europe, on n'en a plus. Depuis, il y a eu le Prestige, mais depuis le Prestige, qui est 2000, donc presque en même temps,
oui.
Il
n'y
a plus d'accidents, parce que Erika a donné Erika 1, 2, 3 en Europe, c'est-à-dire des nouvelles règles sur les bateaux. Erika, ça a été le fait que les affréteurs, c'est-à-dire les pétroliers, ont payé, même malgré la convention internationale qui s'était bien préparée entre eux, que le préjudice écologique est payé, ce qui fait que pour un pétrolier, choisir un bateau poubelle, c'est extrêmement risqué. Et donc, le rapport coût-avantage ne vaut plus le coup. Et donc, on ne le fait plus. C'est pour ça qu'on n'a plus d'accidents. Vous ajoutez à cela un travail formidable qu'a fait le tribunal des affaires maritimes de Brest pour les dégazages. Donc, il n'y en a plus beaucoup non plus. Je dirais que de ce côté-là, le droit a vraiment fait son travail.
Total s'en souvient, en 2012, reconnu définitivement responsable en indemnisant à hauteur de 200 millions d'euros les collectivités locales, les associations lésées. Vous avez alors rencontré, largement discuté avec Alain Bougrain-Dubourg, parce qu'il y a eu aussi en victime collatérale ces 300 000 oiseaux, ce sont des images aussi qui nous ont marqués.
Et alors, il y a eu quelque chose de très important. Jusque-là, quand Alain, quand la LPO déposait une plainte, on lui indemnisait les dépenses qu'il avait faites pour nettoyer ces oiseaux mazoutés.
Oui.
Le grand progrès de l'Erika, c'est que c'est la perte des oiseaux eux-mêmes qui a été indemnisée, c'est-à-dire le préjudice écologique.
Voilà, la valeur animale déjà. Vous voulez réagir là-dessus, Benjamin Morel ?
Non, si vous voulez, je trouve qu'en effet, on est aujourd'hui dans une période où quand même ces idées sont en train de progresser, notamment grâce au droit, notamment parce qu'on a eu des évolutions juridiques qui sont des évolutions juridiques considérables. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu la Charte de l'environnement qui est rentrée dans le bloc de constitutionnalité en 2004-2005. Donc, on est aujourd'hui dans une progression de ces causes-là. Mais on va y venir, si vous voulez. Le problème, c'est qu'au niveau national, on peut faire des choses, mais qu'aujourd'hui, les grands défis sont à envisager au niveau international et que là, il y a des lueurs d'espoir. On a en effet le Green New Deal qui est porté par la Commission européenne. On a même la BCE qui est en train de bouger. Du côté de la gauche américaine, notamment du Parti démocrate, on a également des idées qui sont des idées fortes, qui sont avancées face aux prises de position de Donald Trump. Tout ça, malgré tout, reste encore relativement précaire, mais il y a des lueurs d'espoir sur ces questions-là.
Oui, on va parler du niveau international, Corinne Lepage. Sur le niveau national qui nous concerne aujourd'hui, ce qui a été voté cette semaine au Parlement risque de vous faire réagir. On prône l'urgence, tous les citoyens que nous sommes prônent l'urgence. Ouais. Le Parlement français a voté la fin du plastique
en
à 40, usage unique
2040.
À l'horizon 2040. Ouais. Ça, c'est un manque d'ambition politique.
Bah, écoutez,
c'est une réalité
et puis,
économique.
Écoutez, très franchement, un député ou un gouvernement qui légifère ce qu'on va faire en 2040, ça n'a aucun sens. Je suis désolée, ça n'a aucun sens. Vous êtes responsable du mandat que vous avez au moment où vous l'avez. Alors, ou bien vous légiférez sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ou bien c'est du pipeau. Je suis désolée, parce que ce qui est voté aujourd'hui, on peut exactement voter le contraire dans la prochaine mandature, and so what.
Donc ça, c'est de la com, c'est de la com purement
ça ne sert à rien. Enfin, ça donne une direction, je veux bien. Mais si vous voulez, quand vous dites sur des choses importantes, on vous donne 3 ans ou 4 ans à l'industrie pour s'adapter. Ça, c'est normal. L'industrie, elle ne peut pas changer tous ses process du jour au lendemain.
Mais c'est ce qu'on va leur dire aux industriels du plastique.
Mais 2040, attendez, ce n'est pas demain matin. Non, c'est pas raisonnable. C'est franchement pas raisonnable.
Il aurait fallu avancer l'horizon d'au moins 10 ans pour vous. 2030, c'était plus raisonnable.
Je pense que on aurait dû au moins mettre ça, parce que ensuite on se donne les moyens de ses ambitions. Quand vous avez des ambitions aussi faibles, pourquoi voulez-vous mettre des moyens en face? Parce que vous êtes toujours des bonnes âmes qui disent, on s'en occupera en 2035, hein, pour 2040, on aura bien le temps.
Heureusement, ce qui est en train de bouger, là, vous mettez le doigt déjà dessus, Benjamin Morel, c'est la mobilisation citoyenne. C'est pas parce qu'on a une loi si tardive pour agir que nous, au quotidien, on ne peut pas faire bouger les choses et à chacun de modifier ses pratiques. On parle beaucoup de lois anti-gaspi, aussi à titre individuel.
Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas faire reposer l'ensemble aujourd'hui de la crise écologique sur les épaules des individus et sur les épaules des citoyens. Évidemment que chacun peut faire quelque chose, mais aujourd'hui, les vrais enjeux, les vraies dynamiques, elles sont envisagées en termes de politique publique. Ces politiques publiques, très clairement, elles doivent être menées par l'État. Elles doivent être menées, que ce soit directement, que ce soit par l'incitation, que ce soit par la sanction. Mais ce sont aujourd'hui sur ces politiques publiques, d'abord et avant tout, que nous sommes en retard. Et là, en effet, il y a le niveau national, il y a le niveau européen, il y a le niveau international.
Alors, je vais faire la liaison entre ce que vous venez de dire et le sujet précédent. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui à la transformation du monde par le droit et par la justice. Vous parliez des faiblesses au niveau international. Aujourd'hui, sur le climat, puisqu'il y a cet échec, c'est un échec, la COP25.
Attendu, hein.
Attendu, mais enfin, il est là. Oui. Vous avez aujourd'hui plus de 1500 procès dans le monde menés par des collectivités publiques, des ONG, contre des États, aussi contre des sociétés pétrolières d'ailleurs, mais contre des États pour obtenir qu'ils fassent plus que ce qu'ils avaient décidé de faire. L'exemple a été montré par les Pays-Bas, avec une décision Urgenda. J'ai l'honneur, moi, de porter la première action en carence climatique contre la France avant l'affaire du siècle, qui est la ville de Grande-Synthe qui le porte. Et je pense qu'il y aura des développements dans les jours qui viennent, mais je ne veux pas anticiper. Et il y en a comme ça partout dans le monde. Vous parliez des villes. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire porter sur les citoyens. Mais les grandes villes font des trucs formidables. Le C40, les grandes villes françaises et américaines font des choses extraordinaires. Il y a le monde financier qui commence à se bouger un peu lentement, mais quand même, vous parliez de la BCE, le monde des assurances, parce qu'il est directement concerné. Donc en fait, bouge partout, sauf là où ça devrait bouger, c'est-à-dire chez les États.
Est-ce que ces mondes-là, ils sont représentés dans ces grandes conférences comme la COP25, Corinne Lepage ?
Oui, ils sont représentés, mais ce n'est pas eux qui signent les conventions internationales. On est dans un système westphalien,
c'est-à-dire
dans lequel
aussi.
C'est les États qui décident pour les autres. Et très franchement, c'est très perturbant pour la démocratie à moyen et long terme que d'avoir des États qui sont dans un tel système d'impuissance, parce que la première chose qu'on demande à un État, c'est d'assurer l'intégrité des populations. Moi, je regrette beaucoup. Aujourd'hui, on est en face d'États qui ne font pas ce qu'il faut pour assurer l'intégrité des populations.
Mais Benjamin Morel, si je parlais des citoyens, c'est parce qu'on a entendu quand même des voix se levant à la COP notamment, en disant mais il faut revoir ce système, il faut revoir la forme aussi de ces conférences et injecter plus de démocratie, plus de citoyenneté, sans quoi on va rester dans des débats, mais trop scientifiques, trop abscons, et on ne concernera vraiment pas les opinions publiques.
Oui, mais si vous voulez, la question c'est pourquoi faire ? Est-ce que ces conférences, elles ont pour but d'être des grands forums où on discute, où on prend de grandes résolutions, ou est-ce que ces conventions ont pour objectif justement d'infléchir des politiques publiques et de pousser les États, à travers des conventions qui ne peuvent être que des traités, des conventions internationales, à changer leurs pratiques ? Si jamais vous incluez des citoyens simplement pour discuter, on peut toujours discuter et considérer qu'en effet l'écologie est une priorité, ça ne va pas forcément faire plus bouger les États, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou pas. Les États aujourd'hui sont à la fois le problème et, comme vous le disiez bien, la clé pour aujourd'hui évoluer. Ouais. Et là, profondément, se posent d'autres questions parce que ces États, ils ont également d'autres priorités. Ce n'est pas seulement la question du moyen et du long terme, c'est également la question du libre-échange, c'est la question du commerce, si vous voulez. Si jamais vous produisez plus écologique dans un État, vous risquez d'avoir la concurrence d'autres États, d'autres produits qui prennent de l'emploi, qui déséquilibre votre balance commerciale. Tout ça aujourd'hui est une réalité.
Oui.
Mais pour arriver à passer au-dessus de cette réalité, il faut des conventions, il faut peut-être faire évoluer certaines politiques commerciales.
Corinne Lepage.
Oui, ben on le voit parce que la COP25, il y a la Chine, il y a l'Inde et le Brésil, je crois que c'est le Brésil le troisième, qui ont dit aux États industrialisés, ben écoutez, on va aller regarder ce que vous avez fait en 2020, hein, puisque vous avez pris des engagements pour 2020, puis si vous avez tenu vos engagements, ben nous, on va peut-être s'y mettre aussi. Donc les États industrialisés sont quand même renvoyés en face de leurs obligations. Et là-dessus, ce qui est en train de se passer au niveau européen est quand même extrêmement encourageant. Si, bien que le 1 000 milliards ne suffise pas. C'est pratiquement ce qu'il faudrait faire tous les ans, et pas sur la mandature. Mais enfin, c'est quand même un effort considérable. Il y a plein de règles à changer. Il faut arrêter de considérer, par exemple, dans le déficit budgétaire, que les investissements qu'on fait sur le climat ne peuvent pas être faits quand on dépasse les 3%. C'est des investissements sur l'avenir. Ça devrait être par autorisé exemple, dans tous les cas de figure.
Corinne Lepage, et d'autres réflexions à nourrir dans votre mouvement CAP21, vous qui êtes avocat, ancienne ministre de l'Environnement. Merci de vos mots ce soir sur notre antenne. Merci à Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Panthéon-Assas, qui est docteur en sciences politiques. Merci pour ce grand débrief de l'actu.
Merci à vous.
Il est derrière vous, il s'installe et il hume aussi l'air du temps, sa société. Il nous la raconte, François Claus, dans un instant. 19h53, il est temps de retrouver François Claus pour Les Temps Changent.
Les Temps Changent. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Claus.
Qui écoute le monde changer, c'est vous aussi, François, bonsoir.
Bonsoir Wendy. Des citoyens mécontents qui hurlent, invectives, menaces, des dirigeants qui valsent avec des milliards, gérés par de lointains actionnaires, des institutions censées fixer les règles, jouer les intermédiaires impuissantes. Mais où sommes-nous donc ? Montluçon avec des gilets jaunes sur un rond-point, Paris avec des syndicats dans la rue, Beyrouth, Alger, Santiago avec des manifestants. Non, non, pas du tout Wendy. Nous sommes dans une tribune sur un stade de foot, Marseille il y a quelques années, Nantes il y a quelques mois et Bordeaux depuis quelques jours. Que se passe-t-il donc dans ces lieux incarnant une forme de rituel social censé au contraire incarner fête et rassemblement ? Eh bien, nous y trouvons d'abord des actionnaires particulièrement gourmands, très pressés de faire fructifier la phénoménale explosion des droits TV du foot. Nous y trouvons des dirigeants censés désormais acheter, vendre des joueurs le plus vite possible, comme des paquets d'actions. Nous y trouvons des instances, UEFA, Ligue, incapables de fixer des règles, et à l'arrivée, des supporters excédés qui voient leur club, le foot qu'ils aiment depuis toujours, leur échapper. Avouez qu'on n'est pas si loin de Beyrouth ou d'Alger. Oui, nous voulons notre part légitime de pouvoir, ni de Montluçon. Quel est donc ce nouveau monde qui balaie l'ancien et nous laisse au bord de la route, ni finalement de Paris. Oui, nous voulons nous faire entendre. Le foot, une nouvelle fois, nous renvoie un formidable miroir de notre temps, celui de cette phénoménale accélération des échanges à l'heure du numérique. Savez-vous qu'un Barcelone-Real mercredi soir sera regardé par 500 millions de téléspectateurs de Shenzhen à Valparaiso ? Et bien sûr, les profits qui en découlent quand le génial George Best à Manchester dans les années 72 émergeait à 100 000 euros par mois, Cristiano Ronaldo aujourd'hui est à plus de 20 millions d'euros. Cette mondialisation de la passion foot a attisé toutes les convoitises. Elle fut russe, qatari, américaine, désormais chinoise. Et nous avons cette semaine assisté à la grande opération de communication du futur diffuseur de la Ligue 1, groupe espagnol, Mediapro, contrôlé par les actionnaires chinois. Ils ont déboursé 780 millions d'euros par an pour retransmettre 85% des matchs de L1. La L1 vendue au total 1,150 milliards d'euros. Et savez-vous combien il fallait débourser pour ces mêmes matchs en 2004 ? 350 millions. Ça fait une hausse de 778 millions en 15 ans. Je vais vous proposer d'écouter une savoureuse archive retrouvée par notre ami Sylvain Denis, responsable des archives sur Europe 1. Écoutez bien, nous sommes en 1974, le président d'un jeune club alors s'insurge, il dit attention, attention, trop d'argent dans le foot, eh bien ça va tuer notre championnat, je vous dirai après de qui il s'agit.
Jusqu'à présent, les clubs de football ont été gérés par des gens qui n'ont pas les notions de la valeur de l'argent. Ce qui donne des transferts qui sont absolument exorbitants, des salaires qui sont aussi plus ou moins fantaisistes, parce que justement il n'y a pas de gestion. Ce qui veut dire aujourd'hui, le championnat de France de première division, il y aurait 3 ou 4 équipes qui disputeraient le championnat parce que les autres équipes auraient disparu.
Alors je vous dis qui c'est, il est président du PSG, Daniel Echter, et nous sommes en 74, retournement de l'histoire. Alors la colère des vrais amoureux de foot, Wendy, de Marseille à Nantes en passant par Bordeaux, ne repose pas seulement sur une forme de nostalgie, c'était mieux avant, quand on allait au stade avec son fils, qu'on dégustait une merguez frite devant un derby à l'ancienne entre Lille et Lens ou Metz et Nancy. Non, elle exprime une vraie inquiétude, celle que le foot devienne un grand spectacle télévisuel, on va manger des sushis devant sa télé et regarder tous les week-ends un Barcelone-Manchester, un Real-Bayern, bref, les vainqueurs de la mondialisation. Et les footballeurs, eh bien, ils seront l'échelle de leur talent autant sur leur tatouage que sur leur contrôle orienté. Question quand même, jusqu'à quand les amateurs de foot vont-ils jouer ce jeu? Mediapro nous a dit cette semaine, 3 millions de Français vont dépenser 25 euros par mois pour regarder de la L1. Quand on voit qu'hier, en 5 matchs, 4 buts ont été marqués, pas sûr que ce soit gagné. On va voir ce qui va se jouer au Qatar, peut-être en Chine pour une prochaine Coupe du Monde. Est-ce que c'est vraiment encore du foot? Ça laisse un peu de temps pour répondre. Après tout, mais qu'est-ce que je vais faire moi ce soir?
Oui.
Ben, je vais regarder ça. PSG, ben oui, je vais pas rater ça quand même. Vous voyez, il y a encore de l'espoir.
Merci beaucoup. François Clos, c'est votre humeur du temps. C'est toujours un plaisir de conclure avec vous ce 18-20 du week-end. Je vous remercie Marlène, merci à Jérémy Hébert, à Naïma Benchemann, à Fabien Lecoeuvre, à vous chers amis auditeurs qui nous accompagnent avec plaisir. On se retrouve dans une semaine. Et Lionel Rousseau dans un instant. Le foot, bien sûr, et toujours.
Et c'était Wendy Bouchard.